Vous en apprenez des noms grâce à nous, quand même.
J'apprends tout, même.
Et alors, je vois que maintenant, vous portez carrément des t-shirts Voltaire.
Oui, oui.
Mais pour sans Zadig, sans Zadig.
Sans Zadig.
Ouais, bah, je sais, j'ai une culture à moi tout seul.
Tu as déjà lu Voltaire, non?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il a écrit?
Il a écrit plein de trucs, surtout des lettres, si tu veux.
Dis-moi un des livres de Voltaire, un titre de Voltaire. Alors, tout de suite, sans réfléchir.
Sans réfléchir, 13 000 euros du mètre, au troisième étage avec ascenseur, voilà ce qu'il a écrit.
Bérénice, Andromaque.
Tout ça, c'est lui?
Mais oui.
Moi, je croyais que si l'homme était parfait, il serait Dieu, c'est Voltaire.
Défendez votre camarade, Marcella.
Non, mais c'est sa technique de faire semblant qu'il est con. Mais en fait,
il l'est vraiment.
Voilà, exactement. Oui.
Non, mais il fait semblant d'être ignorant. Oui. Et en réalité, il sait tout. Mais il est modeste.
J'ai une première citation et là, on va en avoir des noms propres ainsi. Une citation pour Dylan Durand, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique, qui a dit « Se marier pour le sexe, c'est aussi sensé que d'acheter une compagnie aérienne pour avoir des cacahuètes gratuites.
» Coluche ?
Coluche, non.
Français. Woody Allen.
Ce n'est pas français, c'est Woody Allen. Ah. Bonne réponse d'Antoine Duléry.
Si on s'est marié pas pour les sexes, on s'est marié pour quoi?
Pour l'argent.
Ah. Non, non.
Pour la dot.
Ouais, non, pour une bonne côte de bœuf qui soit bien grillée et en même temps moelleuse l'intérieur.
Mais ça, c'est parce que tu sais tes rêves et tes mariés. C'est parce que tu rêves.
Tu ne touches jamais le linge.
C'est parce que tu rêves d'être marié à une Argentine. C'est pour ça que tu me dis ça de la côte de bœuf.
Moi, je me marie avec une Argentine, vous ne savez pas faire cuire la viande. Vous la cuisez beaucoup trop fort. Ça, non, c'est la meilleure viande du monde. Mais la plus mal cuite. Je ne parle pas de viande, moi. Tu peux me parler de tas de trucs que tu connais mieux que moi. Voltaire, Rousseau, François Sagan, par exemple. Mais pas la côte de bœuf.
J'ai une autre citation pour Ludovic Surel, qui habite Saint-Médard-sur-Île, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « J'ai eu 3 lignes dans le Times quand j'ai décroché un Oscar et 8 pages quand mon mari a couché avec Marilyn. »
Simone Signoret.
Bah oui. Bonne réponse, évidemment, d'Antoine Duléry. Eh oui, Simone Signoret, 3 lignes quand elle a décroché un Oscar, 8 pages quand Yves Montand a couché avec Marilyn Monroe.
Et je crois qu'il est temps de chanter avec Pierre Bénichou un petit Montand.
Allez-y si vous voulez.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins...
À bicyclette,
on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant
avec Paulette.
Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. La bicyclette, on se disait c'est pour demain. J'oserais
demain. Vous voulez pas le laisser chanter tout seul, Pierre?
On ira sur les chemins.
Il y a un vrai montant, mais il y a un montant avec... compensatoire.
On peut vous charrier tout ce qu'on veut, mais pas sur mon temps.
Ah non, on peut pas vous charrier sur mon temps.
Bah non, parce que j'adore ça, et lui aussi, il adorait.
Ça, que vous adoriez, ça, je suis certain, mais enfin, voyez.
Quand Duléry chantait devant mon temps disait un imitateur comme d'autres. tandis que quand moi,
malheureusement,
quand disait...
c'est faux, Pierre, car je ne l'ai jamais malheureusement rencontré.
Non. Pour que ça se voit.
Non, ça s'entend.
Tandis que vous, qu'est-ce qu'il vous disait?
Tu chantes bien, Pierre. On dirait moi.
Oh, c'est facile de me faire parler aujourd'hui, dites-donc.
Ah oui, il est mort, je le fais parler.
J'ai une question très difficile, mais évidemment, Monsieur Lambron étant présent, il devrait retrouver son confrère de l'Académie française, quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes. Il a occupé un fauteuil à l'Académie, c'est ce qui, normalement, devrait vous permettre, Monsieur Lambron, de le retrouver. C'est quelqu'un qui avait écrit... Personne ne lit plus aujourd'hui, sauf ceux qui écrivent.
C'est bien. Est-ce que c'est au XXe siècle?
Ah, c'est juste. Hein. Personne ne lit plus aujourd'hui, sauf ceux qui écrivent. Alors, c'est quelqu'un qui est mort en 1963 à Paris.
Wow. Voltaire.
Voltaire. Ah. Non.
Mauriac. Ah.
Mauriac.
Ça aurait pu être lui. Hein.
Félicien Marceau.
Félicien Marceau. Non.
Non.
Il a été élu à l'Académie française en 1919.
Oh là là, il était super vieux.
Paul Vialard.
Paul Vialard.
Oui, grand auteur qui a écrit plein de choses, La Grande Meute, mais je ne sais pas s'il était à l'Académie française.
Ah voilà, c'est pour ça que je
crois que c'est une connerie que tu viens de dire.
Pas forcément.
Non, parce qu'il a
refusé l'Académie.
Un grand chasseur.
On peut refuser
Paul Vialard. Oui, est-ce que Laurent, il a écrit du théâtre, ce monsieur?
Alors, il était surtout romancier et essayiste, et non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de la dramaturgie.
Mais il était essayiste chez Renaud.
Il a écrit des romans Le Pays Natal, La Petite Demoiselle, Les Roquevillards, La Robe de Laine. C'est joli les titres, hein, La Neige sur les Pas.
Mais en fait,
il était né à Thonon-les-Bains.
À quelle année?
Ah, il était né en 1870. Ah, et, donc il est mort assez âgé, il est mort à 93 ans.
Henri Bordeaux.
Henri Bordeaux.
Oh, oui.
Bonne réponse de Marc Lambron. Henri Bordeaux. C'est Georges Pompidou qui fut un des premiers à l'inaugurer en février 1967. Mais le général de Gaulle l'avait déjà visité en 1966. Et puis finalement, Pierre Messmer l'inaugura aussi en 1973. Mais de quoi s'agit-il ?
Un musée ?
Un musée, non.
Un cinéma ?
Un cinéma, non.
Messmer, un monument.
Un monument, pas tout à fait.
L'aérotrain ?
Qu'on comprenne bien, le général de Gaulle rend visite au chantier, on va appeler ça.
À l'aéroport.
Un chantier à l'époque, en 66. Pompidou en inaugure, on va dire un morceau, le 10 février 1967. Et finalement, une fois bien que c'est terminé, en 73, Pierre Messmer, qui est Premier ministre, fait l'inauguration définitive.
Les voies de Seine ?
Les voies de Seine, non.
La Croix de Lorraine.
La Croix de Lorraine, hein, évidemment.
Ah oui, c'est vrai ?
Eh oui. Non.
J'aime bien vous faire rêver, Chantal.
C'est pas la tour Montparnasse.
Ce n'est pas la tour
L'aéroport
Montparnasse.
L'aéroport d'Orly ?
L'aéroport d'Orly, non plus.
C'est à Paris ?
C'est à Paris.
Et c'est culturel ou c'est un truc urbain ?
Ce n'est
urbain.
Pas culturel.
C'est comme une voie d'autoroute.
C'est urbain.
C'est une gare. C'est
une gare. Un rond-point, une gare. Non.
Non.
La voie sur berge.
La voie sur berge. Non.
Le premier Franprix.
Le premier Franprix. Non, Moustapha.
La maison de la radio.
Le périphérique.
Le périphérique. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui.
Ah oui, pour inaugurer vraiment le périphérique, il fallait attendre qu'il se fasse tout le tour.
Parce que si
t'inaugures comme... C'est pas un périphérique, oui, c'est un petit morceau.
Justement, Pompidou a d'abord inauguré un tronçon, un morceau du périphérique. Voilà, De Gaulle était allé voir les travaux au début. Et c'est Messmer, une fois que vraiment le périphérique était terminé, bouclé, qui a fait l'inauguration définitive. Mais chacun voulait en inaugurer un bout, c'est normal, c'est une si belle œuvre.
C'est une sorte de parc d'attractions, si tu te démerdes bien, t'as même une photo qui va avec.
Chantal, là-dessous, vous allez sur le périph'.
J'adore le périphérique.
Elle a travaillé...
sur le côté.
Sur le côté, ouais.
Toujours sur le côté.
Je rate souvent la sortie, mais j'adore.
Porte de la Villette.
Et c'est quand les gens la voient qu'ils roulent plus vite,
elle
en général.
Elle a fait de l'abattage, là-bas.
On l'appelait la voie d'arrêt d'urgence.
30 clients par nuit. Hein.
Elle vient de faire flasher, mon chéri.
Beaucoup plus que ça. Je passe par le bois, moi.
Elle travaillait porte-jartel.
Ouais.
Chantal, jamais vous avez fait ce genre de choses.
Mais non, jamais.
La prostitution.
J'ai failli à un moment donné.
C'est vrai, vous prostituez ?
Un jour, je rentrais du théâtre. Ah. Et j'étais maquillée comme une bagnole volée. Et j'avais un chignon et tout. Et je suis tombée en panne d'essence, dans la descente, vous savez, qui va au pont de Suresnes. Et là, je me suis fait rattraper par plein de garçons qui voulaient, vous voyez, j'étais quoi. Je me suis laissé glisser.
Et eux aussi.
Je me suis laissé glisser jusqu'à la grande cascade.
Ah oui ?
Ah oui, j'ai couru jusqu'à la grande cascade. Et là, je suis arrivé, il y avait un mariage et j'ai appelé mon mari qui venait me chercher.
Ah quand même ?
Ah oui, quand même.
Ah donc ça s'est bien terminé.
Ça s'est bien terminé. Ouais. Si vous voulez, j'ai quand même un certain potentiel.
Faut tomber sur un antiquaire.
Ils vous ont dit quoi ? C'est combien pour votre fille ?
Non, j'étais toute seule.
Non, ils ont dit, tiens, ils font des putes chez Leader Price maintenant.
C'est de la merde.
Une question pour Elisabeth Fouteau qui habite Fresnes dans le Val-de-Marne. Je peux vous dire qu'on l'appelle la maladie de Hansen. Quel est l'autre nom de cette maladie ?
Parkinson ?
Charcot ?
Non, la maladie de Hansen.
La migraine ?
Du nom d'un Norvégien qui s'appelait Gerhard Harmauer.
Les gens
Hansen,
qui se perdent chez Ikea ?
Qu'il a identifié.
Ah,
non.
C'est qu'il l'a identifié, il ne l'a pas attrapé.
Ah non, il
l'a
identifié.
Parce que c'est impossible de donner la sclérose
en plaques. La sclérose en plaques, non. Il a en fait découvert le bacille responsable de cette maladie.
Alzheimer,
non.
Parkinson ?
Ebola, Parkinson, non.
C'est une maladie grave.
C'est une maladie très très grave.
La connerie.
Moi aujourd'hui, mais elle l'a été.
La tuberculose ?
Très contagieuse.
La syphilis.
Ah, très contagieuse.
Oui. La lèpre.
La lèpre. Bonne réponse de Laurent Baffir.
Ça
C'est un électro qui a inventé le premier jeu de grattage.
Et le carpaccio en jouant de la guitare.
Non, mais souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, on leur donnait des clochettes. Hein, pour
ouais,
les
des cresserelles.
Voilà,
en Inde aussi, il y en a encore.
Pour les entendre arriver, vous voyez, ouais. c'est quand même assez terrible. Et on leur donnait un métier bien spécifique, ils étaient cordiers. C'est eux qui...
De père et flic.
Non, ils étaient cordiers, ils étaient... ben oui, ils préparaient les cordes, et pour les bateaux, et pour les pendus.
C'est les lépreux qui ont monté les chips aussi.
Quand ils se grattaient les peaux.
Quand ils se grattent.
Ils disaient, on va manger un bout.
Non, mais ils se mariaient entre eux. Ils me disaient, monsieur, non, est-ce que vous,
oui,
me, donnez,
le problème,
est-ce
c'est
que
quand
vous
il...
me donnez la main de votre fille? Disait, oui, la voilà.
Vous voulez laquelle?
Il y a des lèpres qui ne sont pas contagieuses, comme la lèpre sèche.
C'est pas si contagieux que ça, la lèpre.
Ah bon?
Moi, j'en ai rencontré en Inde, quand je voyageais beaucoup.
Ah oui?
Et j'ai serré la main d'un lépreux.
C'est pas vrai.
Et alors?
Elle est dans mon salon.
Une question pour monsieur Frédéric Gauthier, qui habite Bron dans le Rhône. Tout le monde connaît Statler et Waldorf, et pourtant on ne connaît pas forcément leur nom. Mais qui sont Statler et Waldorf?
Des marques de toilettes.
Pas du
Jacob
tout.
De Lafont.
Non.
C'est des gens, c'est des vrais gens?
Alors, ce ne sont pas tout à fait des vrais gens, même s'ils représentent des gens.
Ça doit être la marque de quelque chose.
Pas du tout.
Le Waldorf Astoria est un grand hôtel.
Alors, exact, Ariel, c'est là qu'on voit quand même que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui
connaît. Et le camping de Melun, ça te parle?
Non, mais Waldorf, nous on connaît Ginette Novotel, mais alors elle, les noms.
Mais elle a raison, Ariel, parce que le nom de ces deux personnages, Statler et Waldorf, s'inspire effectivement de deux hôtels new-yorkais, le Statler Hilton et le Waldorf Astoria. Bravo, Ariel.
Ce sont des personnages.
Ah non, mais ne l'applaudissez pas, parce que ça ne nous dit pas qui sont les deux personnages.
Ce sont des personnages de d'un roman.
Ce ne sont pas les personnages d'un roman.
Mais c'est de la fiction.
Et alors, vous les connaissez
tous.
Ce sont
deux architectes.
Mais on ne sait pas comment ils s'appellent.
D'une bande dessinée?
Alors, d'une bande dessinée, non.
Ils sont dans une peinture?
Dans une peinture, non. Mais
une sculpture?
Mais vous les connaissez très très bien. Tout le monde les connaît.
C'est
mais,
Dub et Dumber.
Mais on ne sait pas comment ils s'appellent. Ben non, puisque Dub et Dumber, vous savez comment ils s'appellent.
Ah, ils doivent être sur un drapeau ou sur un...
Non.
Ou sur,
ou, Statler sur et un... Waldorf.
C'est, par exemple, genre pour nous indiquer c'est des toilettes pour hommes ou les toilettes pour femmes.
Pas du tout.
C'est une marque de glace?
Non plus.
Pas dans
des
la peinture.
Films.
En plus, vous êtes capable de les imiter, Statler et Waldorf, car vous les connaissez bien.
De les
imiter. C'est des personnages de films,
non.
D'animation, non.
D'animation, oui.
Ah.
Alors, c'est
Donald et Mickey. Donald Duck.
J'ai dit d'animation, mais c'est pas pour autant un dessin animé.
De pâte à modeler.
Ah, c'est des marionnettes.
Ce sont deux marionnettes.
C'est Guignol et Niafron.
Mais non,
Nicolas et Paprenel.
C'est
Gromit et
Wallace.
Non plus, ce n'est pas de la pâte à modeler.
C'est vieux. Ah, c'est pas les vieux dans le Muppet Show?
Ce sont les deux vieux du Muppet Show. Oh. Bonne réponse. Ah. De Laurent Baffy. Les deux vieux qui sont évidemment dans le public et qui commentent tout ce qui se passe.
C'est génial, imiter comment ils parlaient.
Ils parlaient comme ça. C'est de la merde, les grosses têtes. On s'emmerde.
Je sais pas pourquoi ils gardent ma bille. Hein.
Attendez, Bouvard est revenu.
Le Muppet Show, il a disparu depuis 20 ans, non?
Ah, mais il revient régulièrement, le Muppet Show. Puis il y a eu des films aussi, et effectivement. Ouais. Ce sont les deux spectateurs acariâtres qui passent leur temps à critiquer, à ironiser sur la qualité du spectacle. Ils sont dans une loge d'avant-scène. C'est vrai, d'ailleurs, qu'au théâtre, c'est toujours particulier ces loges qui sont tout près de la scène dans laquelle on voit des gens qui, parfois, commentent ce qui se passe. C'est Jacques Ramad qui m'a raconté souvent qu'un jour, il était sur scène et il a entendu dans cette loge, il y avait deux personnes, dont justement une personne plutôt âgée. Et la personne assise à côté lui dit « Tu entends bien ?» Et l'autre lui répond « Non. Ah, c'est grave. Pas du tout. »
Je me rappelle, j'avais oublié le cauchemar de tous les gens
alors,
qui montent sur scène.
Raconte-nous une bonne
anecdote. Non, mais je sens que ça va être pourri, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'essaye, hein, c'est ma troisième tentative. Hein. Donc, j'avais oublié de fermer ma fermeture éclair. Et donc, je joue et je m'en aperçois. Donc, j'essaye subrepticement de la remettre. Et il y a deux personnes devant qui font « Ah, bah quand même !»
Aïe.
Ouais, je m'en sors bien. Je suis un peu nul en anecdote. Hein.
Moi,
et là,
ça m'est arrivé.
C'est horrible. Hein.
Et au bout de 10 minutes, il y a la personne du troisième rang qui dit « J'en avais marre de l'avoir sur l'épaule.
» C'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
Elle a vraiment dit ça.
Ah, oui, oui.
Ah, c'est génial.
Moi, j'ai une petite vieille une fois.
Ah ouais.
Qui, au premier rang, bien sûr, c'est toujours au premier rang, qui a hurlé dans le théâtre, qui m'a dit d'habitude, je vous aime bien à la télé, mais là, je peux pas. Et elle est partie.
Mais la meilleure anecdote concernant le théâtre et le public, c'est celle pareille que m'avait raconté Jacques Ramat. J'adore cette histoire. Peut-être l'ai déjà racontée, mais je vous la raconte à nouveau.
Par rapport à Drucker, vous avez de la marge.
Alors j'y vais, c'est une troupe de théâtre, ils sont sur scène et ils sont 6 à jouer la pièce de théâtre. Et ce jour-là, dans la salle, il n'y a que 4 personnes. Alors là, ils réfléchissent, ils se disent, mais est-ce qu'on joue quand même ? Est-ce qu'on va jouer ? Et puis ils se disent, bah non, on va pas jouer pour 4 personnes. Alors donc ils vont voir le public et disent, écoutez, on va vous rembourser vos places, mais nous ne jouerons pas ce soir. C'est comme ça, quand il y a moins de personnes dans la salle que sur scène, on est autorisé à ne pas jouer, donc on va vous rembourser les billets. Et là, sur les 4 personnes, il y a, on va dire, le chef de bande des 4 qui disent, mais écoutez, on est venu en voiture tous les 4, on a fait 300 km pour voir votre pièce de théâtre, alors franchement, vous savez, on est fan, vraiment, faites un effort, jouez pour nous, même si on n'est que tous les 4, on a pris une voiture, on a roulé, on a payé un hôtel. Alors évidemment, toute la troupe se regarde, et bon ben tant pis, alors on va jouer. Alors les 6 acteurs jouent la pièce se joue tout à fait normalement, les 3 actes.
La chute.
Et à la fin de la pièce, évidemment, les 6 acteurs saluent le public et les 4 personnes qui sont dans la salle font « Ouh !»
Ah non, c'est pas vrai.
Non, il paraît que c'est une légende urbaine. Ça.
Ah non.
Vous avez passé un bon week-end, vous avez profité du soleil, Pierre
Bénichou. Oui, j'ai profité du soleil et j'ai passé un bon week-end grâce au soleil.
C'est vrai qu'il a fait beau et que tout le monde a pu profiter de ce joli
week-end. Pas moi, je suis resté à la maison.
Ah oui,
oui.
À regarder la télévision.
Non, l'étude et la méditation.
Et vous, Marcella Yacoub, qu'est-ce que vous avez fait de ce beau week-end ensoleillé?
Ah, rien, j'ai travaillé.
Ah oui.
Marcella. Elle est restée à méditer à la maison.
Ah, vous étiez avec Pierre.
On nous a découvert.
cette voix sensuelle, moi, ça me fait quelque chose. C'est la première fois que je me retrouve face à
ça. C'est très, rare, c'est... Au début, ça fait ça. Après, c'est très vite casse-couille. Au début.
Ah non, mais moi, j'adore la voix de Marcella. Vous m'avez manqué, Marcella.
Vous aussi.
Je préviens nos auditeurs. Après la voix sensuelle de Marcella Yacoub, voici celle de Christine Bravo.
Ça fait pas tout à fait le même effet, mais bon.
On passe de chez Hermès à chez Tati.
Essaye d'être au top de la sensualité, Christine, pour dire bonjour. Essaye, pour voir.
J'ai avoir du mal.
Vas-y, Christine.
Allez. C'est vous.
Quoi, c'est vous?
C'est la première fois que je la vois de près.
Marcella Yacoub.
Ouais.
Là, on est chez Caron, chez Castorama, on est là.
Elle est jolie.
Marcella, j'adore quand vous souriez, j'adore quand vous parlez. Même quand vous êtes muette, vous êtes belle.
Ah, c'est gentil.
Oui, même encore mieux muette.
Mais vous êtes comme ça, en vrai, dans la vie, éthérée.
On dirait que tout glisse sur vous, Marcella.
Ouais,
dire n'importe quoi.
Ouais, c'est ce que je disais.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
C'est dégueulasse.
Mais réagissez.
Non, c'est pas dégueulasse. Dans l'amour, il n'y a rien de sale, moi.
Ne vous laissez pas faire, Marcella, je vous en prie.
Mais je trouve pas ça agressif.
Ah.
Non, ça m'excite un petit peu. Je trouve ça un peu sensuel.
Voilà.
C'est vraiment, Pierrot.
Tu te demandes pourquoi elle a des succès avec les hommes. Elle sait leur parler. On dit des conneries, elle dit ça m'excite un petit peu. Ça m'excite un petit peu.
Puis c'est la même voix que Dalida sans l'Austral Biz.
C'est vrai que vous pouvez imiter Marcella Yacoub, vous, Christophe.
Si vous voulez, un petit peu. Il est tenté de ne pas trouver les réponses.
Moi, j'avais interviewé Marcella il y a très longtemps dans une émission. J'avais rien compris au livre, je me rappelle. Et je me souviens, c'était l'anti-manuel d'éducation sexuelle.
Ouais.
Et ça parlait beaucoup. Ça parlait pas mal de prostitution, non? Il me
ouais.
semble. Hein. C'est ça. Vous avez une fascination pour les prostitutions, pour la prostitution.
Venez habiter chez moi.
Méfiez-vous de Christine Bravo, hein, Marcella, je vous le dis.
Non, je ne veux pas l'attaquer, attends.
Pourquoi?
Mais parce qu'elle me fait peur, elle est trop éthérée, trop... Toi, tu m'avais dit, tu vas pouvoir le rentrer dedans à mort.
Mais non, c'est à Pierre que j'ai dit ça.
Et depuis, il essaye.
Mais je ne suis pas contre. Non, moi, j'ai jamais vu ça. Marcella, j'ai jamais vu ça. Une femme comme ça, depuis tout à l'heure... Vous ne dites rien, vous bougez à peine.
On se demande même pourquoi on me paye.
Mais Et je te jure, elle est incroyable.
Mais ça, Christophe, arrêtez, on ne sait plus quand c'est la vraie et quand c'est vous.
Mais c'est pas difficile, quand ça parle, c'est moi.
Ah, parce qu'elle parle pas.
Non.
Mais jamais.
Jamais.
Mais pourquoi elle est là? Pour compenser avec vous.
Une question pour monsieur Laurent Chugnot, qui habite Saint-Laurent-des-Hôtels, dans le Maine-et-Loire.
C'est ton frère.
C'est mon frère. C'est le frère que j'ai eu avec Isabelle Mergaux.
Chugnot.
Monsieur Chugnot.
Monsieur Chugnot. Vous n'avez pas de question de Thierry Bermite?
Non, mais j'ai Michel Gland. Alors, la question... Non, écoutez, franchement...
Question gravier aussi.
La question pour monsieur Chugnot de Saint-Laurent-des-Hôtels.
C'est en alsacien en fait, ça. Ouais.
Monsieur Chugnot.
Monsieur Chugnot, tu
je vous jure que je ne l'invente pas.
Ah, oui.
C'était pas dans la guerre. Ah, monsieur Chugnot.
Ça s'écrit C-H-U-N-I-A-U-D. Voilà.
Oh, ça n'a rien à voir.
Il habite rue du Var, à Saint-Laurent-des-Hôtels.
Ah, quand même.
Ah, j'aime bien le Var.
Pour quelle raison dans la presse reparle-t-on de Sally, Franklin, Jerry, Kirk et Pam?
Est-ce que c'était c'est pas Friends. Des Tortues Ninja?
Pas du tout.
C'est les Friends?
La série feuilleton. Friends. Ah, la série Friends, non.
Ah, non.
C'était des chanteurs?
Des chanteurs, non.
Vous pouvez redonner les noms?
Des dessins animés?
Bien sûr. Sally, Franklin, Jerry, Kirk et Pam.
Ce sont Franklin, des animaux? Pour moi, c'est une tortue dans oui. un dessin animé.
Non, non, ce sont tous des humains.
Ce sont des quintuplés. Ah.
Franklin, si je peux vous aider, est handicapé, pas les autres.
Ouais. Ce sont des quintuplés.
Comment ça, des quintuplés?
Ils sont cinq, c'est des frères et sœurs, non?
Ah non, ils ne sont pas frères et sœurs, ils sont amis.
Mais ils sont français, c'est dans un film?
Il y en a deux qui sont frères, Sally et son frère handicapé Franklin, mais il y a aussi Jerry, Kirk et Pam.
Ce ne sont pas des Français.
C'est dans un film?
C'est dans un film.
The Avengers.
Non, monsieur Mabille.
Un film américain, donc.
C'est un film américain.
Film, pas série.
Pas série.
Et, et le film date de quelle année?
Ah bah ça, c'est à vous de me le dire.
Les années 60.
Années 70. C'est...
Années 70, est-ce qu'il y a eu un remake depuis?
Je crois qu'il y a eu même peut-être des suites.
C'est un film de Coppola.
Mais on reparle de ce premier film qui date précisément de 1974, où on voyait Franklin, Jerry, Kirk, Pam et Sally.
Oui, la planète des singes.
Ah oh oui, les singes s'appellent souvent Jerry, Kirk, Pam, Franklin et Sally.
Est-ce que c'était un film musical?
Un film musical?
Les guenons s'appellent Caroline, souvent.
Eh bien, ce sont de très jolis guenons.
Elles sont plus belles que toutes les autres.
Et si on en reparle, il y a une bonne raison, évidemment.
Oui.
Le Titanic,
deuxième orgasme.
Bah, je crois que je vais repartir en vacances, j'y avais oublié, moi.
Elle a pris l'habitude
massacre
du micro.
Massacre à la tronçonneuse.
Massacre à la tronçonneuse. Bonne réponse de Caroline Diamant. Cinq amis, jeunes et insouciants, Sally, son frère handicapé, Franklin, Jerry, Kirk, Pam, qui traversent le Texas à bord d'un minibus. Là, ils prennent en stop un homme au visage vicieux, plein de stigmates. Ils les menacent, mais ils arrivent à s'en débarrasser. Sauf que peu de temps après, ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence dans une station-service. Les cuves sont vides. Ils vont vers la maison d'enfance de Sally, Franklin... Kirk, Pam partent se baigner, aperçoivent une vieille ferme isolée. Et la suite, c'est Jean-Marie Bigard qui va vous la raconter. Jean-Marie.
Oui, les films d'horreur qui sont donc constamment stupides, puisque 20 minutes après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite, hein, que des morts violentes. Des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur partout. Bon, normalement, il devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu? Donc, je vous rappelle les chiffres, il reste 4 blaireaux. Et là, le plus trapu des 4, il dit, on va faire 2 groupes de 2. Et là, moi, je dis non! Personne ne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts. Oh, ils feront 2 groupes de 2 un autre jour, hein. Il y a des tas de jours où c'est agréable de faire 2 groupes de 2. Hein. Moi, je vois, l'autre jour au Monoprix, on a fait 2 légumes, 2 alcools, on a gagné un quart d'heure. Mais là, non! Là, on n'est plus que 4, je sais ce qu'on fait. On se met dos à dos sur la table du salon, avec toutes les lampes électriques, et on attend. Et là, le caméraman, faudra qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Hein? Entre parenthèses, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire. Hein? Je lui demande pas de faire un gros plan, mais il pourrait l'avoir en entier au moins une fois quand même. Parce qu'en fait, on sait rien de ce type. Hein? Et après, bah, il n'y aura plus qu'à... Moi, à ce moment-là, je me lève et je me barre. Il n'y aura plus qu'à attendre le numéro 2 pour qu'il y ait un autre massacre de merde dans la même maison pourrie. Tu vois ? Parce qu'il faut bien le faire, le numéro 2. Ça rapporte de l'argent. C'est pour ça que je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons.
Voilà, un bel hommage à Massacre à la tronçonneuse. Oui. Une question pour Pierre Doliger, qui habite Saint-Germain-sur-Brel. En Italie, tout le monde... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?
Non, Brel, moi, ça me fait toujours rire. J'aime bien le mot Brel.
Ça vaut pas le coup, pourtant. Alors, la question concerne Domenico Starnone.
Ah, ouais.
Domenico Starnone est italien. C'est un journaliste, écrivain, scénariste italien. On ne le connaît pas forcément chez nous, en France. Et pourtant, nous devrions sûrement le connaître. Lui et peut-être même son épouse, traductrice Anita Raja. Mais pour quelle raison ?
Lui, c'est un artiste, monsieur ?
Ah bah, écrivain, alors est-ce qu'un écrivain est un artiste ? Oui.
Mais pas lesquels ?
Parce que c'est le mari d'Elena Ferrante, la mystérieuse auteure de...
L'ami
prodigieuse.
Alors écoutez, je crois que je vais accorder cette excellente réponse à Christine O'Krent. Voilà. Bravo ! Elle a effectivement raison. Ouais. Il y a un mystère autour de cet écrivain, Elena
Ferrante. Personne ne sait qui c'est vraiment.
Personne qui est vraiment. Qu'est-ce que, comment vous dites
non, si...
Personne ne sait qui c'est vraiment. Hein.
Et ben voilà.
Et ben c'est ça.
Ah ben ça
non, mais il y a un journaliste italien qui a eu l'idée de consulter les registres fiscaux et qui a constaté que le couple.
Elle s'appelle Anita Raja et lui, Domenico Starnone, donc.
Et donc ce journaliste a constaté que le couple avait acheté énormément d'immobilier.
Ah.
À Rome et à Milan, et oui. C'est à partir de là que
il a
l'idée est venue que ce serait non pas lui, mais elle, qui serait l'auteur de cette série de livres extraordinaires qui maintenant a donné lieu à
une série.
Une série.
Est-ce que vous en avez
une
lu
série, une série.
Oui, j'ai lu les.
Est-ce
j'en
que
ai
c'est
lu
très
3
bien
sur 4.
C'est quoi la série ?
Est-ce que c'est très bien ?
C'est une série
c'est
qui commence sur Canal.
Ah oui,
au quatrième, voilà. Mais non, c'est remarquable.
Une série.
Je vais de ce pas aller acheter ça.
Vous gêne dans votre conversation.
Vous avez du mal à en placer une.
Monsieur Benichou, Madame O'Krent.
Oui, mais vous en avez à la maison. Non, parce que je peux vous l'acheter d'occasion.
Elena Ferrante, effectivement,
oui.
Auteur de best-sellers.
Oh, puis en plus, qu'elle a fait. Hein.
L'ami prodigieuse, ou encore le nouveau nom, celle qui fuit et celle qui reste, l'enfant perdu, autant de best-sellers.
Des années 50.
Et il faut
des
dire...
Des petites filles.
Il faut dire, qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je raconte qu'il s'agit de petites filles à Naples.
Mais j'ai
dans
pas lu,
un...
moi, ça.
Voilà, dans les années 50.
C'est le premier tome.
Et une série, effectivement, est tirée, qui passera dès ce soir sur Canal+, qui s'appelle L'ami prodigieuse.
Ce soir, personne ne me bouge de chez moi. Je regarde ça.
Vous n'avez pas peur que ça vous fasse un petit choc, quand même, passer directement de Rex à Elena Ferrante.
C'est chaud, ouais.
J'ai pas peur, monsieur Benichou, que vous sautiez des étapes.
Je fais un intermédiaire, regarde-toi plus belle la vie.
Sans sas de décompression.
Il téléphone, Rex. Vous vous moquez de Rex.
Mais c'est un chien.
Depuis deux épisodes,
ah ouais,
il téléphone.
Mais c'est un berger allemand.
Mais bien sûr, il a un kit.
Il téléphone, il arrive. Alors avant, il s'approchait du téléphone et on entendait... Là, il fait tomber le téléphone.
Et il parle ?
Non. Il a un kit pâte libre.
Ah, il parle dans
le... Tu sais que je pense qu'il commence sur Rex et il se réveille sur pâte patrouille à l'heure du goûter, à mon avis.
Non. Et il parle dans son langage de chien.
Mais il parle à qui, du coup ? Un autre chien ? Il téléphone à un autre chien ?
Pas du tout.
Ah bon ?
Il téléphone à son patron.
Ah bon ? Ah, il a un patron ?
Mais oui, Rex. C'est un chien de policier.
Mais c'est allemand.
Donc il téléphone au commissariat.
À Derrick, il appelle Derrick. Mais qui est-ce qui double Rex en France ? Parce que Wouhou, c'est pas allemand.
Je crois que c'est Pierre.
C'est Pierre qui te le double ?
C'est Pierre.
Oh non, on est deux.
Ouais, quand un est pas libre, c'est l'autre.
Fais que les scènes d'action.
Moi, je fais le chien en colère.
Ouais.
Et il y en a d'autres qui font le chien pédé.
Ah.
Vas-y, alors fais le chien en colère.
Il y en a. Moi, je fais... Il y en a qui font waouh.
C'est pas mal, il le fait bien.
Quand je pense que je suis en train d'essayer d'élever le niveau de cette émission.
Et que heureusement je suis là.
Évidemment,
oui,
Christine,
oui.
Car cette brillante réponse, voilà, sur Elena Ferrante, elle vient quand même de vous, Elena Ferrante. L'auteur de L'ami prodigieux.
Non, 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 enfin, moquez-vous de ce que vous voulez sur moi.
Pas de Rex.
Ma mère, mais ça, je m'en fous. Mais Rex, non. Parce que c'est moi qui donnais à Rex ses lettres de noblesse.
Ariel, si vous pouviez calmer, monsieur Pierre.
Ouais, tu sais comment me calmer, toi.
Je vous dis de la trompette.
Il va m'apprendre.
Pouvez-vous me dire pour quelle raison le Figaro nous rappelle que le mot prévenir, le mot oubli, le mot don et le mot exemple ou même opportunité sont des mots qu'il faut utiliser de façon précautionneuse.
C'est dans un discours de Zemmour.
Non,
ça a été utilisé dans une œuvre littéraire.
Non, mais c'est vrai que le Figaro nous rappelle que Jean Maillet, spécialiste du français, nous dit de faire attention avec ces mots-là parce que ce sont des mots qu'on emploie parfois de façon
différente, malvenue.
Pas malvenue, mais
on, dans leur mauvaise
à contresens. À contresens, non.
Il y a mais un dans exemple leur célèbre. Dans leur mauvaise acception, c'est-à-dire que
non.
Parce que les uns sont pris pour les autres. On emploie, c'est les mots dont on emploie, enfin les si.
Alors, on la laisse parler. C'est
non,
inintéressant.
Mais, si, non, pas du tout.
Moi,
mais
même
non.
Pas, je dis un truc, il me dit non, non, c'est pas ça.
Allez-y, ma princesse. Allez-y.
Ça pourrait être des vertus.
Oh,
ça
oui,
pourrait être des vertus. Prévenir, l'exemple, l'opportunité, le don, et les gens, au lieu d'être précis, emploient un mot pour un autre.
Non, c'est pas ça.
Ils sont de la même famille.
Non, non.
Est-ce qu'ils font partie ces mots-là? Laurent, est-ce qu'ils font partie d'un exemple célèbre?
Ce sont pas des mots français au départ.
Ce sont 5 exemples que nous donne le Figaro.fr cette semaine.
On les conjugue mal?
Non, non.
Ce sont pas des mots français.
Il faudrait que vous les remettiez dans certains contextes.
Tous ensemble?
Prévenir? Non, pas tous ensemble.
Alors, prenons prévenir.
Alors voilà.
Ils font partie d'un proverbe.
Dans l'infinitif ou conjugué?
Prévenir.
Alors, il faut prévenir,
ça veut dire.
Dans l'infinitif, ou même vous pouvez
ça
conjuguer.
Ça veut dire venir Isabelle. Dans un pré.
Comme il vous sied, chère Isabelle.
Alors, oh là là là. Alors, par exemple, prévenir.
Oubli, ça peut s'écrire avec un nœud
ou... Non.
Non, avec un nœud.
C'est pas une histoire d'orthographe.
Non, c'est des gâteaux.
Je vous avais prévenu que ce serait très difficile.
Non, non, mais c'est pas une histoire d'orthographe.
Ah, ce n'est pas une histoire d'orthographe.
Il faut trouver la phrase où on les utilise mal.
Absolument.
Alors, je fais don. De mes organes, c'est j'utilise bien ou je l'utilise pas
là,
bien.
Là, vous l'utilisez très bien.
Ah, alors.
Mais certains diraient pas comme vous, certains diraient plus mal que vous.
Ah oui, diraient. Certains Sauf. Diraient, tu fais d'autres des organes, mais personne n'en veut.
Je vais prévenir la police. C'est bon ou pas bon?
Ça, c'est bon.
Et je vais faire en sorte de prévenir mon capital santé. C'est bon ou c'est pas bon?
C'est bon aussi.
Prévenir ben alors, tout le monde.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Dans quel
Allez,
cas,
où le problème?
Dans quel cas utilise-t-on mal les mots prévenir, oubli, don, exemple et opportunité?
Je fais un don culte.
Parmi votre liste, quel serait le mot à même de plus nous aider à trouver?
J'ai envie de dire don. Don, c'est vrai qu'on l'emploie souvent dans une expression et qui est une grosse erreur.
Il y a une faute d'orthographe quand on l'emploie.
Je suis digne.
Pardon.
J'ai un don pour...
Pour, rien,
pour l'improvisation.
Je suis.
Exemple.
Je oh, suis. Je suis digne d'un don.
J'ai fait un... Digne d'un don.
Dites, oh, Laurent.
Oui,
dites,
Isabelle.
Dites une phrase qui soit, où le mot soit mal employé.
Ah ben non, parce que si je vous donne la solution, évidemment.
Bah, on va peut-être pas trouver.
Ah hein. si, parce que normalement, là, c'est criant si je vous donne évidemment les 5 cas dans lesquels ces mots sont mal employés.
Ah ben oui, si on dit ce don, il est question.
Le mot est mal placé.
Don Pérignon.
Une autre, il pense qu'à l'alcool et la bouffe. Hein.
Est-ce que le mot est mal placé dans la phrase? Don tact.
Non, c'est bien un don D-O-N, c'est bien un oubli O-U-B-L-I, prévenir comme prévenir et exemple comme exemple, pareil pour opportunité. Et voilà 5 mots qu'on utilise de plus en plus souvent très mal dans les médias ou dans la presse. Voilà pourquoi
l'apostrophe.
Voilà pourquoi Jean Maillet nous dit de faire attention. Et je vais vous donner la solution.
Alors.
Trop souvent, on entend dans les médias un don gratuit. En fait, il s'agit de pléonasme.
Eh
oui, mais ça se dit.
Ils sont bêtes, ces bêtes.
Bah oui,
mais ça se dit de plus.
C'est tellement énorme, c'est tellement con.
Et avec exemple, Laurent.
Un don gratuit.
On entend souvent un don gratuit.
Pas aux grosses têtes.
Et ça, pas aux grosses têtes, mais c'est un prévenir d'avance.
Ah oui.
Bah oui, mais là, vous parlez d'une, je sais pas, de gens complètement dégénérés. Non, rien là.
Moi, je dirais
que
monsieur...
je pensais pas que c'était à ce niveau-là.
Elle est pas terrible, votre question. Mais,
monsieur...
Ah, si, un oubli involontaire.
Mais non.
Ah oui, on dit souvent ça, un oubli...
Mais non,
un animateur stupide.
C'est pas moi, c'est le Figaro.
Oh, bah alors,
monsieur Maillet et Marteau.
Ah non, 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 écoutez.
Et alors,
autre exemple.
Exemple.
On dit souvent « comme par exemple ». Et ça, on ne doit pas dire « comme par exemple ».
Non, ah oui, par exemple.
On dit jamais. Hein.
On doit dire « exemple » et non pas « comme par exemple ».
Ou alors « par exemple, exemple ».
Et quant à « opportunité », je vous donne le cinquième tout de même.
Oui.
Eh bien, on dit souvent, et on a tort, « une opportunité à saisir ».
Oh,
Mais ça, c'est sur le plateau d'Anouda, là, pour rigoler. Attendez,
là, vous nous parlez des...
Le don gratuit, alors là, ça me tue.
Ah si, ça s'entend. Et il y en a des tas d'autres.
Tu fais que des dons payants, toi.
Dans les pornos, une tonne. À saisir,
l'opportunité à saisir,
on entend parfois aussi une petite camionnette. Oh. Ben non, une camionnette, voyez.
Ah oui.
Mais oui, mais bon.
Une petite bistouquette. Bah non.
Ça n'existe pas.
Constellée d'étoiles.
Eh oui.
Ah bah oui, bah oui.
Non, mais alors là, c'est joli pourtant.
Et l'eau qui mouille. Mais il est con ce mec, c'est pas possible.
Être mal fagoté.
Parce que
être fagoté, c'est être mal habillé de toute façon. Donc,
une Ariel anorexique.
Être mal fagoté. Une dune de sable, c'est un pléonasme.
Ah bon?
Ah bah oui.
Mais
oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre incarné dans la chair?
Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dune à part le sable?
Eh bien justement, voilà pourquoi on ne doit pas dire une dune de sable.
Tu dis une dune et on comprend que c'est de sable.
Dans les autres pléonasmes, ne dites pas « il neige dehors ». Non, dites « il neige ».
Oui.
Ça dépend si on n'a pas de toi.
Ça dépend si on prend de la coke.
Le bois de Boulogne est le seul endroit où, quand tu donnes un coup de pied dans un buisson, il te le rend.
Philippe Bouvard.
Ce n'est pas de Philippe
Patrick
Bouvard.
Patrick Sébastien.
Non.
Coluche.
Oh, dites, à chaque fois qu'on parle du bois de Boulogne, ne prononcez pas le nom de Patrick Sébastien, il va nous en vouloir.
Bon, écoutez, si je peux me permettre, il a quand même, lui, beaucoup raconté, je crois même dans des livres, qu'il aimait s'y promener.
Oui, mais il a changé, il a une vie de famille aujourd'hui.
Maintenant, mais maintenant, il va au bois de Vincennes.
Le bois de Boulogne est le seul endroit où, quand tu donnes un coup de pied dans un buisson, il te le rend.
Est-ce que cette personne-là est mourue?
Non, c'est quelqu'un de bien vivant encore. Et c'est vrai qu'on a oublié que c'est lui le premier qui racontait ça sur scène.
Amanda Lear?
Ah non, Amanda Lear, non. Oui, c'était sur scène, ça faisait partie d'un de ses sketchs.
Ah bon, alors...
Timsit.
Patrick Timsit, non. Alors c'est plus ancien quand même.
Non, oui, c'est ça, c'est quand même pas récent. Attendez.
Coluche?
On cherche.
Coluche, non.
Vivant. Est-ce que ce serait Popek? Non, c'est pas son
Popek, genre. Popek, bonne réponse de Caroline Diamant. Pourquoi ça vous met en joie, Caroline?
Mais non, parce que au moment où j'ai prononcé son nom, j'ai dit non, c'est tellement pas son genre de dire ça. Et en fait, si, c'est lui. Non, mais je suis ravi.
Évidemment, il ne le disait pas comme ça. Il disait les bois de Boulogne et les salles endroits, quand il donne un coup de pied dans les puissants, il t'aiderait. C'est quelque chose comme ça. C'est un peu ça, Popek. Vous adorez, je crois, Popek. À chaque fois, vous me le proposez. Alors,
mais parce que Popek, il faut que vous compreniez que ma grand-mère, c'était Popek. Moi, j'ai été élevé, voilà, avec une grand-mère qui parle comme Popek.
Ah bon?
Et la fourrure, et les vissons, et les iblis. Et les rinards argentés. C'est un miracle que je parle français.
Et aujourd'hui, tu es aussi molletonné que ces caleçons.
tu connais la vieille dame qui a la grippe? Alors elle a froid, elle appelle le docteur et dit: docteur, je vais mourir. J'ai les 40 de fièvre, comment je vais faire? Il dit: écoutez, vous prenez de l'aspirine. J'ai pris déjà. Il dit: il faut rester au chaud. Alors elle dit: ben, je ne peux pas, je ne trouve pas un converseur. Il dit: vous avez bien un manteau de fourrure? Bien sûr que j'ai le manteau de fourrure. Vous mettez sur votre truc et vous transpirez bien. Le lendemain, il vient et dit: docteur, vous êtes un magicien. Je n'ai plus rien de grippe, je suis comme un papillon. Il dit: qu'est-ce que vous avez fait? Il dit: j'ai suivi votre conseil. J'ai mis la zibline, j'ai mis la visou, j'ai mis l'astracon, j'ai mis le sconce, j'ai mis tous les manteaux de fourrure, même le renard argenté. Il dit: alors, c'est bien? Il dit: c'est formidable. Mais je vais vous poser une question. Comment elles font les grouilles quand elles ont la grippe?
En parlant de vieilles, justement, j'ai été récemment dans un asile pour personnes âgées et ils fêtaient une vieille qui avait quand même 121 ans. Alors l'intervieweur était là, il dit: mais madame, quel est donc le secret de votre longévité?
Hein? Alors si vous voulez, moi toute ma vie, j'ai mangé avec parcimonie. Je n'ai jamais bu. Quant à l'amour, juste ce qu'il faut. Et là, il y a une vieille qui passe encore plus décatie derrière. Elle est là. Mais enfin, pourquoi vous riez? Parce que moi, toute ma vie, J'ai mangé comme une ogresse. J'ai fumé comme un pompier. J'ai bu comme, une, comme un trou. Et j'ai baisé comme une bête. Ben dites donc, vous avez quel âge? 28 ans.
Elle est bien.
Et ce sera une question assez facile, je crois, pour Antoine Lenoir, qui habite Bordeaux. Quelle chanson se termine par ces deux vers? C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. Quelle célèbre chanson se termine par ces deux vers? C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux.
Et là, une question intelligente.
Un chanteur ou une chanteuse?
Une chanson française, oui.
Chanteur ou chanteuse?
Ah, alors écoutez, c'est une chanson que tout le monde connaît, qui peut être chantée par des chanteurs ou des chanteuses, vous voyez.
Est-ce, qu'elle a, oui, mais oui, mais chanté est-ce que quelqu'un l'a rendue connue?
Ah, quelqu'un l'a rendue connue, c'est une chanson. Aristide Bruand, par exemple,
ah, oui,
vous voyez.
Oh là là, ah, oui, d'accord.
Elle est d'Aristide Bruand, donc.
C'est chanté encore maintenant, non?
Ah oui, on la chante encore parfois, oui.
Dans quelle occasion?
Oh, bah dans quelle occasion?
À Claire Fontaine?
Dans un autocar, par exemple, vous voyez.
Ah, c'est une musique pour les enfants.
Ah oui, 10 km à pied.
Ça use.
Et quand on est malheureux, non.
C'est cool, on l'a bien cherché.
Non, ça doit pas être ça.
Un kilomètre à pied.
Ah, mais c'est une chanson de colonie, alors.
Oui, c'est ça. Et c'est une chanson qu'on chante dans un autocar, comme la Rirette, vous voyez.
Ah,
la Madeleine. Jeanneton prend sa faucille.
Jeanneton, ça c'est bien aussi. Mais c'est comment ça, Jeanneton prend sa faucille?
Jeanneton prend sa faucille, oui.
Bah,
la Rirette. C'est une chanson du Mans.
La Rirette, la Rirette.
C'est une chanson du Mans, ça. La Rillette, la Rillette.
Il y a quelqu'un qui a dit la Madelon.
Qui a dit la Madelon?
Ouais, j'ai
dit
la Madelon. C'est lui qui a dit la Madelon.
C'est comment la Madelon?
La Madelon va nous chercher à boire.
Nous servir à boire.
Nana, elle rate le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 ratatapon.
C'est une belle version, mais c'est pas ça.
Au clair de la lune?
Au clair de la lune, non.
Et c'est une chanson qui date de quand? D'avant la Révolution.
Mais moi, j'ai arrêté l'école à 11 ans.
Oh, c'est mais une chanson qui date du 18e, oui.
C'est pas de Bruand, elle n'est pas du 18e.
Oui, mais après, plusieurs auteurs en ont changé les couplets. C'est Aristide Bruand qui a changé quelques couplets de cette chanson qui date du 18e. Je vous le confirme, monsieur Bénichou.
Non, mais excusez-moi.
Est-ce que vous pensez que quand on saura, on connaîtra le texte par cœur?
Ah, le texte par cœur, en tout cas, oui, le refrain et la plupart des vers. Mais c'est vrai qu'on ignore plutôt que la chanson se termine ainsi.
Ah !
C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux.
Eh ben, c'est « Il était un petit navire ».
Alors, allez-y.
Eh ben, « Il était un petit navire ». Il était un petit navire.
Ce qui prouve que les malheureux.
S'ils le sont, c'est malgré eux. Ça marche pas, vous voyez.
Non, non, non. Et est-ce que c'est une chanson qui a un double sens, un sens politique, quelque chose comme ça? Parce que souvent, elle est en
adresse. C'est une chanson plutôt contestataire sur le plan social, oui.
Qu'a des Roussel?
Qu'a des Roussel, non.
Au soleil de Jennifer.
Sapé comme jamais.
Comme jamais.
Il n'y a pas Bergère dans le titre?
C'est ce qui...
Ah, le temps des cerises.
Le temps des cerises, on l'a dit. Gentil Coquelicot, non.
Il n'y a pas Bergère dans le titre?
Il n'y a pas Bergère.
Il pleut Bergère non plus.
Il pleut, il pleut Bergère. C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. Il vous reste 30 secondes.
C'est un déprimé, celui qui a inventé ça, non?
Non, non, non. Mais vous connaissez bien cette chanson. Puis il y a quelqu'un ici parmi nous qui, normalement, plus qu'un autre, devrait évidemment retrouver cette chanson.
Comment s'appelle déjà votre dernier roman? Ça doit être voir.
On l'a trouvé plutôt jolie.
Alors, c'est un rapport avec jolie, quelque chose. C'est un...
Jolie.
C'est... Ah, ah, attendez, je suis sûr.
Ah,
on tient
joli,
un truc, on tient un truc.
Émilie Jolie.
Elle a trouvé Émilie Jolie.
C'est sympathique pour M. Bussy de rappeler le titre de son dernier roman. Qui sait quoi déjà?
On l'a trouvé plutôt jolie, mais d'ailleurs, si. Voilà.
Mais ça n'a rien à voir avec ça.
Non, allez.
Mais c'est quelle personne qui devrait savoir ici? Quelle est la personne qui devrait savoir ici?
Et c'est vrai que c'est plutôt M. Bussy qui aurait.
J'aimerais revoir Madame Bondy.
Non plus. Mais ça, c'était pas mal, j'irai revoir ma Normandie.
Dans le gong.
Mais on n'est pas loin.
C'est la Lorraine, c'est la Lorraine, non?
La Lorraine,
le pont de Tancarville. Ah, mais c'est pas une chanson.
Sur le pont de Tancarville, elle connaît.
En passant par la Lorraine.
Mais la Lorraine, c'est pas en Normandie,
sur
vous voyez.
Sur le pont de Tancarville.
La Lorraine, c'est pas en Normandie.
Si je vous dis qu'il y a une belle dame dans un carrosse doré.
Sur la route de Louviers?
Sur la route de Louviers.
Oh là là,
mais
oui.
C'est trop tard.
Ah oui, c'était pour moi.
Je viens qu'on me la chante alors.
Vous connaissez pas cette chanson?
La route de Louviers, sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier,
et qui cassait des tas de cailloux.
Eh oui. Une belle dame vint à passer dans un beau carrosse doré qui lui dit « Pauvre cantonnier !» Qui lui dit « Pauvre cantonnier, tu fais un foutu métier !» Le cantonnier lui répond « Faut que je nourrissions nos garçons, car si je roulions carrosse comme vous, je casserais point de cailloux !» Cette réponse fait remarquer par sa grande simplicité, c'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. 300 euros en tout cas pour Monsieur Portier. Une question pour Olivia Lioret qui habite Montigny-les-Cormeilles dans le Val-d'Oise. Si vous faites moins 1, puis que vous multipliez par 4, puis que vous ajoutez 21, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Des maths.
C'est la nouvelle feuille de salaire quand l'impôt sera pris à la source ?
Non.
Vous ne calculez pas votre, comment ça s'appelle, IMC ?
Ah, voilà, évidemment, l'égérie des salles qui
exactement,
cool.
Bien sûr.
On voit bien qu'il a pas calculé la sienne.
Merci pour la pub. Ah, non, attends, tu rigoles ou quoi ?
Alors,
j'ai gagné mon pari.
Pour trouver votre poids, on prend quoi, alors ?
Alors, on fait...
Il est déjà fatigué. Il est déjà crevé. Ouais.
On fait mon poids. Ouais. J'ai déjà perdu 4 kilos. On fait moins 1. Après, on multiplie par 4.
Tu multiplies par 4.
Et après, on fait plus 21. Donc, je pèse à peu près 590 kilos. Et là, ça correspond à ma taille.
Si vous faites moins 1, vous multipliez par 4 et puis vous ajoutez 21, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
On obtient une heure.
Une heure, non.
Est-ce que ça, c'est un rapport avec
c'est une méthode
l'espace, avec l'astrologie ou quelque chose
du
comme
tout,
ça.
Du tout. Vous allez voir, ça va drôlement vous intéresser et ça va intéresser beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent.
Est-ce que ça permet de trouver une distance ?
Une distance, non.
C'est une méthode de calcul ?
D'abord, ça va faire taire une légende urbaine, une idée reçue. Ah. Et puis, ça va vous donner un mode de calcul nouveau qui va vous intéresser beaucoup. Vous qui nous écoutez, mais certainement aussi au moins 3 ou 4 de nos grosses
têtes. C'est lié aux calories ?
Aux calories, non.
Est-ce que ça a un rapport avec un ascenseur ?
Avec un ascenseur ? Non, pourquoi moi avec un ascenseur ?
Parce que moins 1.
Ah oui.
Il n'y a qu'en ascenseur que tu vas au moins 1.
Quand tu rentres au moins 1, que tu multiplies par 4, ça te permet de savoir dans quel étage tu vas. Ah, c'est pas con.
Monsieur Riquet, il y en a là-dedans.
Hein. Ah ouais. Mais non, mais...
Ah oui. Il y a un bordel là-dedans.
Mais je suis désolé.
Ça doit être parce qu'elle fréquente trop les montes-charges.
Mais non, mais... Comment est-ce que vous pouvez vous rendre à... Le moins 1, c'est l'ascenseur. C'est pas autre chose.
Il y a un escalier.
Là, il s'agit d'une opération mathématiques, d'un calcul. Je vous dis que vous allez faire moins 1, puis vous allez multiplier par 4, puis vous allez ajouter 21.
Alors, Laurent...
Les animaux, l'âge des animaux. On dit tout le temps, on multiplie par 7 pour savoir l'âge de votre chien.
Ah, voilà.
Et en fait, excellente réponse de Titoff. Excellente réponse de Titoff. En effet, on entend toujours cette légende urbaine comme quoi il faut multiplier par 7 l'âge de votre chien pour avoir à peu près une parité avec l'âge d'un humain. Eh bien non, c'est une erreur. Il faut en fait enlever une année à l'âge de votre chien. Admettons, quel âge qui a un chien autour
moi,
de
cette... Moi, j'ai un chat. Alors, ça compte,
c'est un pas... chat.
Moi, j'ai une perruche.
Moi, j'ai un chien. Et
mon poisson rouge, j'aimerais bien savoir.
Moi, j'ai une maman. Ça marche.
Vous avez un chien.
Oui, qui alors... s'appelle Geneviève.
Alors, votre chien...
C'est vrai votre...
Quel âge a Geneviève ?
Elle a 7 ans.
Alors, vous pensez qu'elle a 49 ans quand vous faites le calcul ?
Oui.
Eh bien, non. Elle a 7 moins 1. 6 fois 4, donc 24, plus 21, ça fait
45.
45 ans. Elle a 45 ans, Geneviève. Voilà.
Avec le chapeau, elle fait plus vieux. Ça marche avec les cochonnes. Alors, Christine,
un chien de...
moins 1, 59. Et t'ajoutes
50. Un chien de 8 ans, un chien de 12 ans.
257 ans, elle est résistante.
Mais moi, je voudrais bien savoir si...
Avec une cochonne, c'est facile à calculer. Tu En tout cas, vous arrêterez grâce à moi de multiplier par 7 l'âge de votre chien pour essayer de savoir à quoi ça correspond. Bernard, on n'est pas d'animaux à la maison.
J'en ai eu, mais je n'en ai plus.
Ah, c'est fini.
On arrive à la nage.
À chaque fois, il s'assoit dessus. Ouais.
Quand je rentre de tourner le soir à carré dans le frigo...
Le nombre de chiens écrasés qu'il y a sous les canapés, c'est incroyable.
Ah, je me suis assis sur mon chihuahua, j'ai eu un décal.
Hein.
Chaque fois, ils disent, qu'est-ce qu'elles ont, c'est quoi, t'as fait un miaou?
Vous savez, vous pouvez maintenant, si vous avez des poissons rouges et que vous vous rendez compte, parce qu'ils deviennent fous dans des bocaux petits, eh bien, on peut les apporter à l'aquarium du Trocadéro.
Ah oui?
Ils font un jogging et ils reviennent.
Non.
Après, ils font la pêche au canard.
Non, ils recueillent vos poissons rouges dans un bassin énorme qui a été conçu pour ça, ouais. Pour tous les Parisiens qui veulent plus de leurs poissons rouges.
C'est quand même plus pratique la chasse d'eau, non?
Ah, patron,
Laurent,
on laisse le portable.
Vous pouvez éteindre votre téléphone, s'il vous plaît.
Oh là là, qui sont...
Vas-y.
On lui envoie une photo avec un caddie à roulettes.
C'est pas non, très...
Mais en fait, le chemin, ils peuvent arriver jusqu'à l'aquarium de Paris par les toilettes. Ouais. Hein. C'est ce que j'ai dit à ma fille, moi.
Pourquoi elle s'appelle Geneviève, votre chienne ou votre chien?
En hommage à Geneviève de Fontenay. Et puis.
Mais c'est une femelle, quand même.
C'est une femelle, oui. C'est une femelle, oui. Et Geneviève. Puis j'ai trouvé que l'odeur était ressemblante.
Si je vous dis que Georges Poujouly, Pierre Larquet, Michel Roux, Jacques Grélot, Sylvie Pelaillot ont été les premiers à mêler leur voix en 1954. Leur voix pour enregistrer quoi?
Un film.
Un film,
truc de Noël.
Une chanson?
Un truc de Noël.
Un conte,
non.
Le Petit Prince.
Le Petit Prince, ah, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et le récitant, c'était Gérard Philippe.
Gérard, ah, on a tous eu ça.
Le premier récitant du Petit Prince à l'époque, c'était Gérard Philippe, alors que c'est Georges Poujouly.
Qui jouait dans Jeux interdits.
Oui. Exactement, qui faisait le Petit Prince. Pierre Larquet dans le rôle de l'allumeur de réverbère. Michel Roux, qui était la voix de Tony Curtis d'ailleurs dans Amicalement Vôtre, qui jouait le serpent dans le Petit Prince, version discographique. Hein, c'était juste un disque à l'époque.
Menestrel.
Jacques Grélot dans le rôle du renard et Sylvie Pelaillot dans le rôle de la rose. Si je vous en parle, c'est parce qu'on célèbre les 70 ans de la sortie du Petit Prince chez Gallimard. Car, attention, le Petit Prince est sorti 2 ans avant aux États-Unis à New York, chez un éditeur américain. Mais chez un éditeur français, c'était il y a pile 70 ans. Et on a une exposition actuellement à Versailles qui s'appelle Le Petit Prince à Versailles. Allez-y, c'est jusqu'au 28 février. Vous pouvez y voir le carnet de vol de Saint-Ex, le bronze réalisé par sa femme Consuelo, bronze du Petit Prince. Mmh. Et vous avez même la fameuse gourmette qui a été retrouvée en mer, près de Marseille en 1998. Seul vestige de l'avion disparu en juillet 44. Une expo Petit Prince à Versailles jusqu'au 28 février. Je suis sûr que ça va être un tabac, cette exposition, parce que le Petit Prince, ça a marqué énormément tout le monde. Vous voyez, la preuve, vous vous souvenez même du disque que vous avez eu.
Oui, mais ça m'a toujours emmerdé, moi.
Ah oui, c'est vrai.
Ça tombe des mains.
Dessine-moi un mouton.
Et alors, il n'est pas content, on va voir si vous en souvenez, il n'est pas content de la façon dont il dessine le mouton, le Petit Prince. Alors, qu'est-ce qui finit par lui dessiner, l'aviateur?
Sa bite?
Non.
Nelson Montfort.
Un casque.
Ah, mais non, mais voyez, alors vous en souvenez pas.
Mais non, je l'ai pas lu, ça m'est tombé
une rose.
Vous l'avez lu, vous, le Petit Prince, j'en suis sûr.
Mais bien sûr, c'est au monde entier qu'on est le Petit Prince.
Ah, voyez.
Bon,
moi, j'ai lu quand j'étais petite.
Eh bien, réponds.
Il est là, il est en panne.
Oui, il y a le monde qui vient le faire chier.
Un avion. Il est dans le désert, il répare son avion. Hein. C'est Saint-Ex.
Ah, bah, il a fait un chameau.
Non, pas du tout. Le Petit Prince lui dit dessine-moi un mouton. Il dessine un mouton, mais il est jamais content du mouton que lui dessine.
Il a dessiné un kebab.
Non, et à un moment donné, il trouve la solution.
Une étoile filante.
Mais non, qu'est-ce qu'il lui dessine?
Un autre animal?
Non, il lui dessine le Petit Prince.
Pas du tout.
Un rond.
Oh, bah alors là, écoutez,
un renard.
Je sens que ça va être 300 euros. Ah, ils sont nuls.
Il lui dessine un crayon et des feuilles, il dit démerde-toi toi-même.
Pas du tout.
Il dessine une grange et dit le mouton est dedans.
Pas une grange.
Une étable, oui.
Pas une étape.
Une boîte. Une boîte.
Un pré.
Une boîte, une caisse. Ah. Il dessine une caisse et il dit le mouton est à l'intérieur. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui, c'est malin. Comme le Petit Prince n'est jamais content du mouton dessiné, il finit par dessiner une caisse et lui dit il y a le mouton dedans, voyez, Bernard.
Moi, je pourrais vendre le disque sur eBay parce que il n'a jamais servi.
Ah oui.
Moi, j'ai dit à Koff, dessine-moi une saucisse, il m'a dessiné une braguette, il m'a dit c'est dedans.
En tout cas, je me suis rendu compte que vous ne lisiez pas et que vous n'aviez pas lu Le Petit Prince.
Si,
j'étais petite, je ne me souviens plus. Mais la passage qui m'a plus intriguée, c'est quand les serpents mangent l'éléphant.
Ça, c'est le livre de la jungle.
Ah. Une question culturelle pour Flore Page qui habite Siran dans l'Indre-et-Loire. Une question culturelle, certes, mais liée à l'actualité tout de même, puisqu'on apprend dans le journal Le Monde qu'un tableau d'Eugène Delacroix représentant Georges Sand, après une de ses ruptures avec Alfred de Musset, ce tableau a été préempté par le Musée national Eugène Delacroix. Quand même, 187 500 euros, ce n'est pas rien. Hein, un portrait de Georges Sand par Delacroix. Alors ma question concerne donc l'œuvre de Georges Sand. Vous êtes évidemment capable de me citer La Mare au Diable, cela va de soi.
Ah ben oui.
Je pense que vous serez capable de me citer aussi La Petite Fadette. Mais ouais. Pouvez-vous me citer au moins deux autres œuvres de Georges Sand ? Oh, je vais vous aider. Un hiver à, où ça ?
À Voriaz ?
Non.
À Loche.
Non. Ah, vous voyez qu'on ne connaît pas si bien Georges Sand.
Non.
À part La Mare au Diable que tout le monde connaît.
Georges Sand, on connaît plus sa vie amoureuse que
son œuvre. Ah, racontez-nous la vie amoureuse de Georges Sand.
Elle a séduit les plus grands. Elle a séduit Chopin, elle a séduit Musset.
Mais on ne voit pas comment, parce qu'elle était moche.
Quoi, elle était moche?
Elle était horrible.
Elle savait faire des trucs. Hein.
Elle avait une...
Et alors, c'est vrai ce qu'on prête à Chopin, à Georges Sand, qui lui aurait écrit une lettre en lui disant « Ne te lave pas, j'arrive ».
Ah oui, c'est pas lui,
c'est Napoléon. Ah bon, je suis déçu.
Napoléon à Joséphine, ça.
Ah mince.
De toute façon, personne ne se lavait à cette époque-là.
Ah bah donc, c'est pas la peine de préciser.
D'ailleurs, Christine, quand vous faites les jupons de l'histoire, vous vous mettez en situation, manifestement.
Je comprends rien.
Ah, c'est pas sponsorisé par Jacob et Delafont. Hein.
Mais vous avez une salle de bain chez vous, Christine.
Mais t'es malade, toi.
Elle met la tête dans les toilettes directement.
Je trouve que tu embellis.
Ah, voyez,
oui. Je trouve que ta vue baisse.
C'est-à-dire que quand t'es à côté de Péroni, je te trouve belle.
Merci, t'es gentil.
Oui, mais il y a Marcella de l'autre côté.
Dans l'hiver, il se passe en France.
Un hiver à...
On recherche bien le nom d'une ville.
Oui.
En Russie.
Oui, parce que, bon, écoutez, je vous en ai donné deux. Je vous ai donné La Petite Fadette et je vous ai donné La Mare au Diable.
Bon. Un hiver à Slégelé.
Non, oui.
À Vladivostok.
C'est où ça, Slégelé?
Enfin, je ne sais pas, justement.
Ah, oui. C'est une ville en Russie.
Une ville en Russie? Non.
En Europe?
Non, pensez plutôt à Raphaël Nadal. Alors, je vous aide, là, vous voyez.
En Espagne.
Non, en Suisse.
À Séville.
À Mexico.
À Palma de Mallorca. À Palma de Mallorca.
Enlevez Palma.
De Mallorca. À Mallorca.
À Mallorca.
Un hiver à Mallorca. Très bien, Chantal. Oh, dis donc, on avance. Hein.
Et il y a Minorque aussi.
Donc, c'est pas,
pas
ça, alors.
Oui, mais c'est un hiver à Mallorca. Donc, on s'en fout de Minorque, Chantal, vous voyez.
Non, parce que je vais y aller. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est...
Et donc, on a trouvé la réponse, alors.
Et quand est-ce que vous allez aller à Minorque,
oui,
Chantal?
Oui, je vais y aller cet été parce que j'ai une amie qui est installée là-bas maintenant et je vais y aller.
Il y a une amie qui vous a fui et vous allez aller la retrouver quand même.
Voilà. Elle ne peut pas m'échapper.
Vous avez des amis, Chantal?
Ah oui, j'ai des
amis.
Ah
oui,
j'ai quelques amis, pas beaucoup.
Ah, c'est vrai?
Ben non. Deux ou trois.
Et alors là, par exemple, vous êtes déjà allé chez cette amie à Minorque?
Non, mais elle est londonienne et je vais aller parce qu'il y a beaucoup d'anglais à Minorque.
Oui, elle essaie vraiment de s'échapper quand même.
Et alors, mais c'est...
Oh, c'est tout.
Mais vous l'avez rencontrée où, cette amie?
C'est une amie que j'ai connue quand j'avais 13 ans.
C'est pas vrai?
Oui.
Ah merde.
Et on s'est regardé, on a eu un coup de foudre.
Ah bon?
Ah, il y a eu des trucs.
Pas sexuel. Hein.
Ah bon, et vous n'êtes jamais revue depuis, ça va lui faire une surprise.
Et alors, tu lui parles en anglais?
On a eu envie de partir à Paris, toutes les deux. Moi pour faire du théâtre et elle pour faire de la mode. Et vous voyez que c'est formidable.
Ah oui, oui.
Mais elle est anglaise?
Elle est française. C'est une fille de Tourcoing, comme moi. Et,
Le théâtre, alors, vous commencez
alors,
quand?
Alors, moi, évidemment... Je vais bientôt commencer au Théâtre Antoine dans Peau de Vache. Vous connaissez cette histoire-là?
Oui, très bien. Peau de Vache, ça, si je connais.
Mise en scène de Michel Faux.
Bon, c'est bien, en tout cas.
On il faut encore un livre.
On a avancé.
Un livre.
J'en voudrais encore un, Georges Sand, vous voyez.
Oh, donnez-nous le début.
Oui,
qu'est-ce que je pourrais... Bah oui, mais il n'y a souvent qu'un mot, alors c'est pas facile.
la première syllabe.
Non, je peux peut-être vous donner, alors allons-y, les maîtres...
Chanteurs.
Non, justement.
Les maîtres du pain.
Non. Les maîtres parleurs.
Les maîtres muets.
Non.
Les maîtres du silence.
Ah non, justement l'inverse. Oh bah écoutez, franchement, vous êtes...
Les maîtres du bruit.
Non. Vous êtes six, vous devriez trouver ça, les maîtres...
Les relous.
Non.
Du vacarme.
Vous êtes six quoi? Les maîtres...
Couillons.
Mais enfin...
Bah oui.
Les maîtres des bêtes.
Les maîtres parleurs.
Non, enfin voyons.
Est-ce que c'est
moqueurs.
Non plus.
Rigolo.
70 romans à son actif, 50 volumes d'œuvres diverses, des pièces de théâtre, des textes politiques. Non, elle a été prolixe, la petite mère Sand, hein, quand même.
Oui, surtout qu'elle baisait entre-temps.
Oui, c'est ça.
Beaucoup.
Mais alors,
Ça t'écrit en baisant, toi.
Ah bah oui.
Bah
oui,
c'est... En tout cas, elle n'a
pas lu ses livres.
Je raconte pas l'écriture saccadée.
Alors les maîtres quoi?
Les maîtres siffleurs.
Pas siffleurs, non.
Ben souffleurs.
Causeurs, causeurs.
On se rapproche.
Ben alors, on se rapproche.
C'est un verbe en tout
Pensez
cas.
Pensez à... Écoutez, là vous êtes tous les six des quoi?
Des maîtres bavards.
Non, non.
Persiffleurs.
Non,
taquin.
Non, non.
C'est en heure?
Ah non, oui, oui.
Ah, hurleur.
Parleur, parleur.
Non.
Hurleur.
Non, non, non.
Comme les maîtres du beurre.
Non.
Causeur.
Les maîtres de la bonne humeur.
Oui.
Bon, je m'aperçois en tout cas qu'en dehors de la petite fadette et de la mare au diable, vous connaissiez rien d'autre.
Rien du tout.
Champy, ça vous dit rien, Champy?
Ah, Champy.
Champy,
bien sûr.
Si, si, Champy, il avait fait des sketchs qui est la messe de Champy, c'est formidable.
Moprat aussi, par exemple, vous voyez. Et puis les maîtres, c'est un mot connu, les maîtres...
Chanteurs.
Non.
Diseurs, diseurs.
Non, non.
C'est un mot connu qui...
Faiseurs.
Mais non, vous êtes si...
Si...
Tiens, ça, ça devrait vous
si
aider.
Si pénible.
Les maîtres sonneurs.
Les maîtres sonneurs, voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Les maîtres sonneurs.
Il a sauvé l'honneur.
Les maîtres sonneurs, c'est des types qui font résonner six cloches. Regardez-moi, oh. C'est mon boulot. Je peux poser ma question.
Oui, oui. Posez-la, posez-la.
Pour Madame Schaeffer qui habite Ingenheim, dans le Bas-Rhin.
Oui, ah.
Alors.
Oh, le Bas-Rhin, un beau film.
Oh, le Bas-Rhin, ça fait.
En fait, si tu veux que ta question passe, ou qu'elle soit, tu vas habiter dans le Bas-Rhin.
Je crois que c'est mon département préféré.
Charles Vacry est mort noyé.
Oh, mon
Tout
Dieu.
Le monde le connaît, mais qui était Charles Vacry?
Bah, un nageur.
Non, pas.
Un marin.
Un marin, mais non. Non, écoutez, là, normalement, la question est une question culturelle très facile à laquelle n'importe quel.
Ah, le commandant Cousteau.
Mort noyé.
À laquelle n'importe qui doit pouvoir répondre.
C'est le capitaine du Titanic.
Pas du tout, non. Thierry, vous me décevez si vous ne répondez
c'est
pas.
C'est le Costa Concordia.
Pardon.
C'est le Costa Concordia.
Mais non, c'est pas le Costa Concordia.
Attendez, c'est littéraire.
Ah, c'est Tarzan, c'est Tarzan. C'est Tarzan.
C'est Miller.
Mais Tarzan est pas mort noyé.
Ouais, mais celui qui faisait Tarzan. Christophe Lambert.
Johnny Weissmuller.
Christophe Lambert n'est pas mort.
C'est un nageur.
Oui, Johnny Weissmuller.
Le vieil homme et la mer.
Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Ben, il dit ce qu'il peut, il essaie. Le
Christian
vieil homme et la mère.
Mais personne n'est mort noyé dans le vieil homme et la mère.
Je ne sais plus, moi.
Qui Christian Vacry?
Vacry.
Charles Vacry.
Ah, c'est un français?
Français, Charles Vacry.
Bon,
il est mort dans l'eau?
Il est mort noyé.
Dans l'eau, de la
mer? Il a existé.
Il a bien existé, Charles Vacry. Il est mort noyé en 1843.
Le radeau de la Méduse.
Mais non.
Celui qui a essayé le premier sous-marin.
Non.
La sémillante.
Non.
Dans
la baignoire. Il est mort dans la baignoire.
Non, c'est pas dans Jules Verne, puisque je vous dis qu'il a vraiment existé, Charles Vacry. Mais vous m'avez demandé si ça avait un rapport avec la littérature, je suis obligé de vous répondre oui. Mais Mme Schaeffer va toucher 300 euros.
Attendez, on est sur le coup, là.
C'est dans un livre. Hein.
Mais non, c'est pas dans un livre.
Mais il est mort dans quel pays?
Alors, je
oui, ah non, c'est important.
Ah,
oui, c'est
ça question. Va être là,
ta question est con, mais elle est importante.
Il est mort
dans ma région, en Normandie.
Ah, ah oui. C'était un Normand.
Ah, c'était pas du tout un Normand, il était né à Nantes.
C'était un Nantais.
Et pourquoi vous voulez savoir ça?
Oh. C'est une question culturelle. Tout le monde connaît Charles Vacry, mort noyé. Il n'est pas mort noyé tout seul, d'ailleurs.
Ah, le bateau a coulé.
Oui, le bateau a coulé.
C'est ce que je dis depuis tout à l'heure.
Oui, le bateau a coulé.
Il est mort avec son équipage?
Avec la Méduse?
On ne peut pas dire équipage.
Ah, il est mort avec sa femme?
Avec sa femme, oui.
Il était dans un avion et l'avion a plongé.
En 1700.
Bah, 1848, 43.
C'était pas un Nantais d'ailleurs qui a vu ça.
Il était sur un bateau avec sa femme, on te dit.
Oui, ils n'étaient pas que tous les deux, hein.
Ils étaient avec qui d'autre?
Ah bah, il y avait des enfants aussi.
Ah, mais il est connu, c'est un écrivain?
Charles Vacry, non.
Non,
c'est un
sa
héros.
Femme, oui.
Sa femme, non plus.
On en a fait un livre?
Non.
Mais Charles Vacry.
On en a fait un film?
Non.
On en a rien fait?
Ouais, chiant, ce bouquin.
Tout le monde s'en fout, alors.
Quelqu'un, en tout cas, il y a eu au moins... Non, mais je ne vais pas vous aider.
Mais si.
Non.
Il y a eu au moins.
Si. C'est un personnage.
Ils sont tombés. Allô?
C'est un homme politique? C'était un homme politique?
Non, c'était pas un homme politique.
Et si on se révoltait?
Oui.
On répond
pas. Ouais. Pour l'instant, on répond pas.
Révoltons-nous, il a besoin de nous, de toute façon.
Non, mais quand vous allez savoir, vous allez avoir honte les uns et les autres. Hein.
Tout le monde le connaît.
Il est connu sous un autre nom.
Non. Charles Vacry est connu surtout parce qu'il est mort noyé et c'était
C'était une catastrophe.
Il voyageait avec sa femme et ses enfants en camp soudain.
Il voyageait pas, c'était ils étaient pas repas. C'est ça qui est terrible d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu fous sur l'eau avec ta femme et tes enfants si c'est pas pour voyager?
Ah oui.
Bah, c'est quand même bizarre, on n'habite pas sur l'eau, sinon j'aurais plus de métier. Quoi.
Oui, mais parfois on part pas sur l'eau longtemps, vous voyez.
Il était une traversée entre la France et l'Angleterre.
Ah non, c'était pas une traversée. Non,
il était sur une île qui a coulé.
Non, il vous reste 30 secondes.
Un tsunami.
Un tsunami, mais non. Mais
ils
non.
étaient en train de pêcher, de passer la journée dans un bateau et puis voilà, paf.
C'était des goélands.
Il nageait.
Oh, j'avais oublié sa voix, elle.
T'es un albatros?
Il nageait.
Oh oui, c'est ça, il nageait en famille.
Mais on ne sait pas.
C'est des goélands. C'est des goélands.
Le bateau a explosé.
Ils étaient sur une barque ou sur un bateau?
Ah, voilà, là. Ah. Une embarcation, en tout voilà, cas.
Et oui. Donc, l'embarcation s'est pris un autre bateau.
Non, mais...
Un iceberg.
Elle a viré,
elle a
chaviré.
Elle a pris l'iceberg.
Le Titanic a volé la vedette à ce bateau. Ça a rencontré un petit glaçon.
On est le 2 septembre 1843. On est à Villequier. Il a 26 ans, Charles Vacry. Il a 26 ans. Il est là avec sa belle famille, sa famille, vous voyez. Il part avec sa femme, Léopoldine.
Ah, Victor Hugo.
C'est le gendre de Victor Hugo.
Le gendre de Victor Hugo.
Non, mais quand même.
Mais on s'en fout du gendre de Victor Hugo. Je savais pas. Je crois qu'elle était morte noyée, mais toute seule.
Ah non, elle est pas morte noyée toute seule.
Bon, bah, elle est morte avec les autres, c'est plus gay.
Question culturelle, puisque vous allez forcément retrouver dans quelle œuvre on peut voir les personnages Manrico, le comte de Luna et la célèbre gitane Azucena.
Don Quichotte.
Don Quichotte, non.
Non, non, non.
Il n'y a pas de gitane dans Don Quichotte. Hein.
Oh, ça dépend de la version.
Il a arrêté de fumer depuis un moment. Hein.
C'est un bouquin de Prosper Mérimée.
Non, mais c'est vrai qu'au départ, il s'agissait d'une œuvre espagnole, mais une œuvre espagnole qui ensuite a été reprise par un célèbre Italien.
Le Barbier de Séville.
Le Barbier de Séville, non.
Non, non, c'est un opéra.
C'est un opéra, oui. Il s'agit donc d'une œuvre espagnole, un drame espagnol. Je peux même vous donner l'auteur espagnol.
La prisonnière de nulle part.
Alors, l'auteur espagnol, c'est Antonio García Gutiérrez. Ah. Mais évidemment, lui, on le connaît moins, alors que c'est son œuvre, si ce n'est unique, en tout cas la seule, qui soit passée à la postérité, car son œuvre, à ce dramaturge espagnol, a été effectivement reprise par un Italien pour un célèbre opéra.
La femme et le pantin.
La femme et le pantin, non.
C'était Puccini qui l'a repris.
Puccini, ah, c'est bien d'essayer de trouver quand même le compositeur, mais ce n'est pas Puccini.
C'est Verdi.
Verdi, oui.
Oui, je l'ai là.
Giuseppe Verdi, bravo. Alors, c'est Verdi qui a rendu célèbre l'œuvre d'Antonio García Gutiérrez.
Qu'est-ce qu'il a fait Verdi?
La Locandiera.
Norma.
Ah, la Locandiera, ça c'est Goldoni.
C'est Goldoni, ouais.
Norma, non.
Norma, non.
La Castagneta.
Rigoletto.
Rigoletto, bah écoutez, il est quand même 17h15.
Allez, bonne, allez, bonne.
On ne sait pas l'opéra le plus connu de Verdi.
Il est connu, oui. Il est très connu.
Un des plus connus.
C'est un nom de couple.
Un nom de couple, non. Donnez-moi les 4 meilleurs chanteurs du monde, disait Arturo Toscanini à propos de cette œuvre, et je vous réussirai à coup sûr cet opéra. Mais lui était chef d'orchestre, hein. C'est évidemment un opéra de Verdi tiré d'un drame espagnol d'Antonio García Gutiérrez. Vous allez à l'opéra de temps en temps, j'imagine, Olivier de Kersauzon.
Non, moi, tu me donnes $1 million, tu je vais pas. Moi.
Le vaisseau fantôme.
Horreur de ça.
Merde.
Ah non, non plus, merde, non, ça j'ai pas...
Mais non, c'est l'ouverture d'un célèbre film en plus, putain.
Ah oui, ça s'appelle... Et c'est bien sûr que c'est resté en consonance espagnole ou ça a été italienisé?
Ah bah, on a la version française, on a la version espagnole.
Le trou vert.
Le trou vert,
voilà.
Excellente réponse de Jean Benguigui. Il Trovatore, si vous préférez, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen?
Non, je m'en fais rire, c'est trou vert.
C'est pas El Trovatore.
Il Trovatore, le trou vert.
Je m'étais armé de mon slip, c'est pour ça qu'il dit ça.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Quoi?
C'est parce qu'il m'a vu au matin remettre mon slip, c'est pour ça qu'il dit le trou vert. Élégance et raffinement sont mes armes, vous l'aurez compris.
pas vraiment, monsieur Janssen.
Non, mais c'est pas possible.
Franchement, non, là, vraiment. Alors, c'est
c'était
honteux.
Le, c'était le surnom d'une écologiste partouzeuse. Dont je ne donnerai pas le vrai nom, mais c'est, on l'appelait le trou vert, oui.
Tout le monde la connaît.
Il ouais. Trovatore, le trou vert. Au départ, c'était espagnol, vous voyez, le Trovatore. Et ça a été traduit en français. Non, écoutez.
Non, mais ils ont une plaisanterie entre eux, là.
Quel est cet écologiste partout aux...
Justement, on ne le dit pas.
On ne le dit pas, on ne dit pas. Attends, elle est encore en activité. Hein.
Vous êtes déjà allé à l'Opéra Bastille, monsieur Janssen ?
Oui. Et en haut des marches au soleil, c'est super, hein.
Non mais enfin, je vous demande juste si vous êtes rentré dans l'opéra.
Ah non, non, non.
Que fait la femelle écureuil avec ses dents 30 secondes après avoir fait l'amour ?
Elle enlève le sperme ?
Oh !
C'est-à-dire ?
Elle retire le sperme pour qu'un autre mâle vienne la voir.
Ça n'est pas ça. Mais vous étiez tout près de des noisettes. Enfin, tout près de...
elle prend le sperme qui est en dehors, elle
non,
se le...
Non, non, non.
Elle ouvre les ovules pour que ça aille direct, quoi.
Non.
Elle casse les spermatozoïdes.
Non, non. Il faut dire que l'écureuil mâle fait quelque chose d'un peu particulier. Il faut savoir ce que fait l'écureuil mâle.
Il rentre ses noisettes.
Non, pour comprendre...
Ah, il met le sperme autour et elle le rentre.
Non, 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 non. Non.
Bon, alors elle va le porter à la
caisse
d'épargne.
C'est pour la reproduction, c'est pour la...
Elle fait une partouze avec tic et tac.
Elle a un souci de procréer.
Exact.
Et lui, il en met un peu partout.
Non.
Il vise mal, l'écureuil.
Elle va déposer le sperme quelque part.
À la caisse d'épargne, l'écureuil. Ouais. C'est la banque du sperme pour elle.
Je n'aurais jamais dû poser cette question.
Est-ce que l'écureuil mâle, quand il s'accouple, envoie sa semence dans le...
Ça, oui.
Bon, c'est un truc classique jusque-là.
Mais il fait mieux que ça, il fait plus que ça.
Il lui en met plus que d'habitude.
Oui, enfin...
Ouais, avec il y a un peu plus, je vous le mets quand même.
Et avec ceci, lui dit.
Il tire la couette.
Non, pas...
Il fait pipi après.
Non, parce que les écureuils sont très fidèles.
Ah oui.
Ah oui.
Ah bon,
ils restent
très
longtemps
non.
Ensemble. Bah, la preuve que non, puisqu'elle veut attirer un autre.
Le mâle garde le sperme.
Non, pas du tout. Elle, avec les dents, elle fait quelque chose de très particulier.
Elle rend la monnaie.
Non.
elle fait une boulette.
Elle fait...
Ah, attendez, on se rapproche.
Elle fait une boulette.
Non, 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 elle fait pas de boulette, elle.
Elle le mastique.
Elle le mâche.
Non, on peut pas comprendre ce que fait la femelle écureuil si vous ne savez pas ce qu'a fait le mâle précédemment.
Bon. Et le mâle, on est d'accord qu'il a fait le truc classiquement.
Il y a eu coït.
Il y a eu coït et il a envoyé le truc.
Et il y a un petit écureuil qui arrive dans la... Voilà. Pop.
Ah, vous... Tiens, je vais t'en mettre un petit coup. Vous l'écureuil imaginez... arrive, il y a l'écureuillette qui est là.
Voilà, voilà. Alors tic-tic et tac-tac, vous voyez, pop.
D'accord.
Et voilà. Et
il fait son affaire normalement.
Et lui, il s'en va, l'écureuil.
Mais il s'est trompé d'orifice.
Il le met à l'extérieur.
Non, il a fait tout ce qu'il fallait normalement, voire même plus qu'il ne fallait.
Ah, plus qu'il ne fallait.
Qu'est-ce qu'il fait, l'écureuil, avant de partir ?
C'est trop dur, la zoologie, je déteste ça. Oh.
Il a laissé un petit bout de son kiki dans elle ?
Ah non.
Bah non, c'est pas un lépreux.
Non, il lui a fait l'amour.
Oui.
Voilà.
L'écureuil a fait l'amour à l'écureuillette, comme vous l'appelez.
D'accord.
L'écureuillette. Oui.
L'écureuillette, si vous souhaitez. Elle, avec ses dents, elle fait quelque chose qui va lui permettre...
Elle referme.
De vuler.
Elle referme son...
Non, justement. Oh, vous n'arrivez
d'avoir
pas...
D'avoir à nouveau un rapport sexuel.
Oui, ça c'est vrai.
Avec un autre mâle.
Oui, ça c'est vrai.
Oui, et donc...
Donc qu'est-ce qu'elle fait avec ses dents ?
Elle rebouche.
Non, justement.
Elle enlève.
Elle enlève.
Elle enlève.
Mais... Elle s'est fait un nouvel orifice.
Non.
Oh.
Elle élargit le tunnel.
Non.
Oh. Elle se gratte.
Oh non, écoutez...
Elle se coupe les ongles.
C'est quoi la réponse,
elle
alors ?
Elle s'arrache des poils.
Mais non !
Qu'est-ce qu'elle elle se fait un plombage à une dent parce qu'elle avait une carie.
Mais non !
Qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Qu'est-ce qu'elle peut faire, ta pauvre bête ?
C'est pas une question d'odeur ?
Je savais bien que j'aurais dû me taper un écureuil.
Ah ouais.
Elle monte et elle descend de l'arbre à toute vitesse pour que ça descende.
Non, oui.
Non elle fait le poirier pour
elle
que
ça... Elle fait le poirier.
Tape dans le fond, je suis pas tic-tac. Ouais.
Elle casse des noisettes pour appâter un autre mâle.
Écoutez, tant pis, je pensais que Laurent Baffy connaissait la sexualité des écureuils. Voyez, vous me réclamez des questions
mais
zoologiques.
Mais c'est pour aussi apprendre des choses, Laurent.
Et
c'est
on
ça
a perdu 300 euros. Oh. Madame Fatima Tarr est très contente. En Vendée, elle va toucher ce chèque RTL. L'écureuil mâle fait l'amour avec la femelle. Et avant de partir, il lui installe une sorte de ceinture de chasteté, un petit bouchon de sperme qui durcit au contact de l'air et bouche l'orifice du vagin. Ce qui fait que elle, l'écureuil, c'est avec ses dents qu'elle a compris que si elle voulait avoir un autre rapport avec un autre écureuil, elle devait déboucher. Non, vous avez toujours dit l'inverse, vous.
Toujours, et toujours oui, l'inverse.
Elle débouche en fait le bouchon de chasteté c'est que génial. Lui a laissé l'écureuil précédent.
Il n'y a pas de desktop chez l'écureuil.
à coup d'incisive, car elle a des incisives.
Il n'y a pas d'écouvillon non plus.
Très puissante. Ainsi, ça lui permet de profiter à fond de sa très courte vie amoureuse. Oh, en effet, l'écureuil femelle n'est en rut que deux fois par an, chaque fois pour quelques heures seulement. Là, alors imaginez si elle devait se contenter
son petit bouchon.
D'un écureuil. Ce salaud qui lui bouche en plus. Vous voyez, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses petites dents. Elle débouche. Et oui. Attend qu'un autre écureuil arrive.
Vas-y Marcel, on a envoyé le desktop.
C'est génial, on a appris quelque chose.
Ouais. 300 euros pour notre auditrice. Vous avez froid, Pierre Bénichoux, parce que je vous vois garder votre doudoune pendant l'émission.
Non, c'est pour se donner un style.
Non,
c'est
parce qu'elle est neuve.
Ça, je sais ce que c'est un truc de gros feignant. Il a la flemme d'enlever sa veste.
Parce qu'il va devoir la remettre après pour repartir.
C'est parce qu'il fait son alcabache.
Oh là là, il se déshabille.
En fait, c'est une doudoune de reporter.
Il y a des poches. Avec plein de poches.
Donc, c'est la première fois que vous seriez reporter de guerre, Pierre.
Non, mais c'est des poches pour planquer ses cartes de visite et ses capotes.
Je fais 9 guerres.
Ah bon? 9 guerres.
Oui, j'ai fait plusieurs guerres. J'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai fait le dernier moment de la guerre d'Indochine, j'ai fait la guerre de Kippour, j'ai fait la guerre des 6 jours, j'ai fait...
Mais t'étais à Paris à chaque fois ou...
Il a dû faire toutes les guerres.
Enfin, si c'est cas, aujourd'hui.
Et l'amour aussi. Hein. L'amour aussi.
Pour Céline Oran, qui habite Saint-Lô dans la Manche, qui a dit « Quand un philosophe vous répond, on finit par oublier ce qu'on lui avait demandé. »
Un humoriste ?
Un humoriste, non.
Un journaliste ?
Un journaliste, non.
Un écrivain ?
Un écrivain, oui, Chantal.
Vivant.
Je connais cette citation.
Vivant, non.
Un philosophe ?
Philosophe, non, on peut pas dire ça.
Non ?
Non, un grand écrivain.
Mort depuis très longtemps ?
Oh, il est mort en 1951 et il avait déjà, à ce moment-là, autant vous dire, 81 ans.
Ah oui.
André Gide.
André Bravo. Gide, bonne réponse de Pierre Bénichoux. Beaucoup plus difficile, la citation suivante.
Merci.
Parce que...
Ça me fait toujours plaisir.
Parce qu'autant vous dire, je crois qu'on n'a jamais cité... La personne à qui on doit cette phrase que je vais vous donner maintenant, et ça fait quand même une chance pour Caroline Broussou de toucher 300 euros, qui a dit « Le secret de la longévité d'un couple, une fois par semaine, dîner aux chandelles, musique douce, etc. » Elle le mardi, vous le vendredi.
C'est Thierry Ardisson.
Thierry Ardisson.
Est-ce que ça a été prononcé en français ?
Ça a été prononcé en français.
Est-ce que c'est une femme ?
Une femme, non.
Des proches ?
Alors je vous rappelle que c'est quelqu'un qui n'a jamais été cité aux grosses têtes. Voilà pourquoi évidemment Chantal là-dessous me dit des proches.
Exactement. Donc c'est déjà.
J'ai pas entendu cette partie-là de la phrase.
Mais c'est quand même quelqu'un de très connu.
Très connu, je n'irai pas jusqu'à...
Est-ce que c'est un humoriste ?
Humoriste, il avait beaucoup d'humour, il montrait évidemment à travers son art que c'était quelqu'un de très drôle.
Un auteur de théâtre ?
C'est pas Victor Hugo déjà ?
Ce n'est pas Victor Hugo.
Un auteur de théâtre ?
Auteur de théâtre, non.
Il montait sur scène ?
Il montait sur scène, non.
Il est mort il y a longtemps ?
Ah, il est mort dans les années 2000-2003. Vous avez
c'est dit... pas Sacha Guitry.
Il peignait.
Il peignait, oui, Chantal.
Salvador Dali.
Salvador Dali, non.
Est-ce qu'on voyait la télévision de temps en temps ?
Non, je connais même pas son visage, je peux pas vous dire.
Ah oui, bah on va connaître son nom. Alors,
il est mort il y a très longtemps ?
C'est un Français ?
C'est un Français, il est mort, je vous ai dit, en 2003.
Oui, j'écoutais pas.
Il avait 67 ans. Il était dessinateur, peintre, surréaliste un peu.
Miro.
Et auteur d'aphorismes.
Est-ce qu'il dessinait parfois dans la presse ?
Oui, il a travaillé, et là ça devrait aider Christine Ockrent évidemment, puisqu'il a travaillé pour L'Express.
Ah ouais.
Il souffrait de la colonne vertébrale, ce qui l'a empêché de continuer à peindre. Et il est mort d'un cancer du poumon, ayant refusé de se faire soigner.
Eh ben,
oui.
Pourquoi voilà, vous dites voilà. Ah oui.
Parce qu'il est...
Parce qu'il a des radios à faire demain.
Il aime pas ces blagues, Michel.
Je sais.
Il aime pas.
Roger Théron.
Roger Théron, non. C'est un nom, tout simplement. Je peux vous donner son vrai nom, peut-être que ça peut vous aider.
Oui, oui,
parce
oui.
qu'évidemment, il avait un pseudonyme pour dessiner et peindre. Il s'appelait Philippe Labarthe.
Est-ce que ça ressemble un petit peu? Ça rappelle un peu.
Il y a quelque chose, oui.
Il y a plus une syllabe ou plusieurs syllabes.
Oh, écoutez, on va peut-être pas aller jusque là.
On va peut-être être obligé.
Est-ce qu'on va dire ah oui, bien sûr.
Non, pas vous.
Ah, voilà. Il est engagé politiquement.
Comment ça a été des...
Vous connaissez ses opinions politiques.
Et ça va vous aider, ça.
Non, mais ça, c'est pour ça, c'est pour l'invité mystère.
C'est histoire de poser des questions.
Il s'appelait Jean Barthes ou quelque chose comme ça.
Une moustache. C'est bien de temps en temps de distribuer de l'argent, moi, je trouve.
Non, mais c'est vrai.
De la part de RTL.
Un peu de générosité.
300 euros pour Madame Broussou, qui
habite... Ça commence par Barthes.
Vergès, dans le Gard. Non, non, Labarthe, c'est son nom de famille. Philippe, c'était son prénom.
Phil,
où ça?
Mais donc.
Oh là là.
C'est proche de Barthes, son pseudo.
Non, son pseudonyme n'a aucun rapport avec son nom de famille.
Oh. Avec son prénom, peut-être.
Exact, Chantal.
Philippe.
Filou. C'est pas Filou.
Philippot.
Philippot est pas très rigolo,
c'est
pas en fait.
Mais c'est un peintre surréaliste, connu comme peintre surréaliste.
Comme dessinateur de presse, il a travaillé à l'Express, vous qui avez été journaliste, Pierre Ménichoux.
Philibert. Ouais.
Vous, Christian Krenz, qui avez dirigé l'Express.
Philomène, oui, mais bien après, manifestement.
Papa, il est mort en 2003, alors.
Alors là, c'est nul, si tu
ne travaillais plus.
Vas-y, comment il t'a cassé, Laurent Ruquier?
Un journaliste de guerre pourrait le trouver.
Philistin,
non.
Philibert.
Celui qui avait déclaré le secret de la longévité de notre couple, une fois par semaine, dîner aux chandelles, musique douce, elle le mardi, moi le vendredi. C'est un peintre français, écrivain un peu aussi.
Bon, hein. Il s'appelle comment alors?
Dessinateur qui s'appelait Ilippe. Ilippe, Ylippe.
Eh ben bravo.
Voilà. Je pense que tout le public est d'accord, ouais. Vous le connaissiez, vous en savez bien sûr, oui.
Un peintre.
On aurait pu trouver.
Quand on a été grand journaliste comme Pierre Bénichoux et Christine Ockrent,
Philippe,
on doit connaître les dessinateurs de presse.
Ouais, bien sûr, on a que ça à foutre.
Écoutez, c'est 300 euros pour Madame Broussou, c'est déjà ça. Une question pour Daniel Muller, qui habite Élancourt, qui a 82 ans cette année, si on en croit 17% des Américains.
Hein,
qui a 82 ans cette année, si
je
on
sais.
En... Allez-y.
Elvis Presley,
bonne réponse de Karine Le Marchand.
17% des gens croient
qu'il est encore vivant, c'est ça?
Bah, attendez, qui a 82 ans cette année, donc il serait vivant?
Bah, c'est ça, ouais. 17% des Américains croient qu'il est vivant.
Vous avez tout compris à la question.
C'est énorme, merci.
17% des Américains croient qu'Elvis Presley est toujours en vie et qu'il a donc 82 ans cette année.
Et qu'il vit une histoire d'amour avec James Dean.
Et ils ont d'ailleurs élu Donald Trump.
Oui, évidemment, c'est 17% d'Américains. Pense que M. Presley, finalement, n'est pas mort comme prévu. Enfin, comme prévu.
Comme on l'a dit.
Comme on nous l'a dit.
En 77.
En 77, le 16 août 1977. Alors, il y a plusieurs petites preuves quand même. Hein. D'abord, il pesait plus de 100 kilos. Et le certificat de décès indique 85 kilos. Ça veut dire qu'il aurait perdu 15 kilos entre le moment où il est mort et le moment où on l'a transporté.
Je crois qu'il est mort dans des conditions atroces. Hein.
Il est mort sur ses toilettes.
Sur ses toilettes.
Ah bah c'est ça, il a fait un gros caca.
Oh non, mais je crois qu'il avait perdu 15 kilos. Il était hyper constipé ou quelque chose comme ça. Non, c'était horrible.
Quelques heures après l'annonce de son décès, en plus, il y a des guichetiers qui affirment avoir vu un homme ressemblant à Presley acheter un billet d'avion pour Buenos Aires au nom de John Burroughs. Et il se trouve que John Burroughs, c'était un des pseudonymes d'Elvis Presley. Vous saviez ça?
Oui. Ben, on a même dit qu'il était toujours à Graceland, puisqu'on ne peut pas visiter le premier étage de la villa. Et il y a des gens qui ont vu les rideaux de la chambre où il serait mort bouger.
C'est génial,
j'adore.
Alors il y a d'autres signes hein, quand même. Il y a une ancienne fiancée d'Elvis aussi qui a reçu une rose de la part de Elle Lancelot. C'est un code qu'ils avaient entre eux. Et elle a reçu après sa mort une rose de Elle Lancelot. Hein, oui, ça aussi. Il y a le certificat de décès aussi qui a été rédigé 2 mois après sa mort parce que le premier certificat avait disparu. L'argent de son assurance vie n'a jamais été réclamé aussi.
C'est vrai.
Mais pourquoi? On peut pas le faire là maintenant?
Bah,
C'est trop tard.
Ces ayants droit ont touché beaucoup d'argent de tous les côtés. Hein. Il y a une vente de disques colossale. Ils n'ont pas eu besoin de l'assurance vie.
Mais on ne peut pas la toucher. Bah,
ils auraient pu la toucher, la donner à des gens qui.
Alors après, on a dit oui, s'ils avaient réclamé l'assurance vie, les gens de l'assurance vie seraient venus vérifier qu'il était bien mort et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas réclamé. Donc,
ah,
toute cette légende.
Mais on aimerait bien.
Ah, donc, faites partie des 17%.
Non, mais je connais leur théorie par cœur. C'est génial. C'est une histoire magnifique.
Love me tender, love me true.
Love me dead.
Pas mal, très beau jeu de mots bilingual. Langue fourchue du bénichou.
Ce serait génial de
regarder le king de la rue Bayard.
Love me tender, love me true. Et encore, je dégrave pas 2-3 boutons.
Je vous en remercie.
Pitié.
Moi, je l'ai vu à Memphis.
Ah oui.
Faire le geste. Dans un stade de basketball. Et c'était en 1967. Un stade de basketball qui était une sorte de
10 ans avant sa mort, donc.
De cratère, comme ça, où il y avait, 500 000 personnes. Le bruit de la foule était encore plus fort. C'était un peu comme vous ici, fasciné par l'interlocuteur, vous voyez ce que je veux dire, hein. Remets ton soutien-gorge, idiot. Et c'est comme ça. Et regardez, et à un moment, il a fait « Love me tender, love me true. »
Ah oui, il allait mal déjà, alors.
Et vous avez pensé à
il a dégrafé un bouton de sa chemise.
Et là, tout le monde a crié.
Et il y a eu un hurlement dans ce stade qui a été quelque chose qui vous prenait aux tripes. Hein.
Mais c'est vrai, en tout cas, qu'il n'y a plus maintenant d'icônes comme ça. Qui à leur seule apparition font trembler les filles. C'est dommage.
Mais je pense que nous, on va
par exemple
Justin Bieber et tous ces gens, c'est pas pareil.
Mais bien sûr que oui.
Mais c'est pas pareil.
Tu vois les gamines, elles les attendent, elles pleurent.
Ouais, Christine, elle pleure devant Justin Bieber.
Exactement.
Elle se baladait en scout avec lui.
Moi, je pense que.
Moi, je pleure devant M. Pokora. Comment il s'appelle?
M.
M. Pokora.
Je pense que moi, le jour où je suis montée sur scène, j'avais oublié de fermer ma braguette. Je l'ai fermée, puis il y a une dame au premier rang qui a fait ah, bah quand même. C'est pas la même chose. Hein.
Alors, moi, c'est l'inverse. C'est le jour où je l'ai ouverte, il y a une dame au premier rang qui dit ah, bah quand même.
Quand même.
Bon, je peux revenir à Presley tout de même.
Ouais.
Ça reste le king, monsieur Manoff.
Bien sûr, c'était lui le détonateur de l'explosion rock'n'roll. Pas vrai, monsieur Bénichou?
Ne relancez pas, je vous en supplie.
Philippe, continuez.
Presley, c'est le king.
Je ne veux pas vous piquer votre formule.
Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire du rock qu'un gars fasse croire qu'il est mort?
Non.
Non. Mais est-ce que ce serait pas mal médiatiquement de faire ça? De faire croire que t'es mort et de revenir 2 ans plus tard? Parce que j'y pense, moi.
Elle ne nous tente pas.
Vous n'êtes pas rocker, vous?
Non, je suis pas rocker.
Elise et Moon, vous auriez aimé, hein?
Ah, j'aurais bien aimé.
Non, il aurait pu.
Ah ouais,
j'aurais bien vu à la basse, derrière un groupe, en train de regarder les
cultes.
Faisant des blagues avec le batteur, monsieur Dieudonné.
Ah oui.
Ah tiens, il y a une chose étonnante dans la presse qu'on a pu lire hier. Vous voyez, si vous avez pris le temps de lire les journaux, vous pourrez répondre. Et c'est une question pour Sylvia Beauvais, qui habite la ville d'Hieu-du-Clin, c'est dans la Vienne. Hier, on nous parlait de jambisation. Ça vient d'Italie, mais qu'est-ce que la jambisation?
Ça vient du jambon?
Non.
Des jambes?
Des jambisations.
Oui, ça vient des jambes, oui.
C'est quand on donne un coup dans une jambe d'un sportif pour l'empêcher de poursuivre son sport.
Alors, qu'est-ce que vous appelez donner un coup?
De donner blessé, carrément. Donner un coup de pied, blessé.
Un croche-pied.
Donner un coup de pompe, donner un coup de couteau dans tirer une balle dans une jambe pour l'empêcher de continuer à boxer.
Exactement. Bonne réponse d'Antoine Duléry.
Quel rapport.
J'ai lu ça hier, c'est un fait divers épouvantable.
Ça vient d'Italie, ça vient de la mafia italienne, la jambisation. Non, ça ne vient pas de Parme, la jambisation.
Si, la jambisation de Parme.
J'ai bien compris, Mabille.
Non, mais je sais que vous avez compris, mais oui, moi, je n'avais pas compris ce que je disais. Mais...
D'où l'expression se tirer une balle dans le pied.
Oui, si tu veux.
Oui, sauf que c'est pas toi qui te la tire.
C'est chiant.
Et ça arrive en banlieue maintenant, de plus en plus.
Et vous savez pourquoi aussi?
Allez-y.
Parce qu'on risque moins en flinguant la jambe d'un mec qu'en flinguant le mec lui-même.
Vous risquez 5 ans à tout casser.
C'est coups et blessures.
On tire...
Sauf si vous tirez entre les deux jambes.
On tire dans les jambes.
Mais là, vous faites un trou de balle. C'est...
Mais là, tu fais une couillisation. Là.
On tire dans les jambes de son ennemi afin de le handicaper et de le marquer à vie. C'est le niveau bas du règlement de compte et une façon pour les malfaiteurs et les délinquants de marquer leur territoire et d'affaiblir un camp adverse. Ça vient effectivement de Sicile, d'Italie, de la mafia italienne. Et il paraît que maintenant, en Seine-Saint-Denis, il y a de plus en plus de cas de jambisation. Et là, effectivement, on nous racontait l'histoire d'un boxeur hier, qui ne pourra plus boxer de sa vie parce que on lui a tiré dans les jambes. On cherche toujours d'ailleurs celui qui lui a tiré dans les jambes. Ça s'appelle la jambisation.
Mais même les flics, par exemple, s'ils disent à quelqu'un haut les mains, que le mec il met pas les mains en l'air, il lui tire dans les jambes aussi. Hein.
C'est pour ça qu'ils disent pas haut les jambes.
Pas forcément.
Parce qu'ils auraient plus sur quoi tirer. Oh les jambes.
Non mais comme ça après ils peuvent l'interviewer, enfin le
l'interroger. Ah, bien sûr, ouais. Bien sûr.
Parce que s'il le tue complètement.
Attendez Valérie, parce qu'il y a Nadine Evnou qui vient de perdre quelque chose.
Non, parce qu'elle mime, alors elle a soulevé ses deux jambes.
Perdu son stérilet.
Elle veut absolument.
Ah bah là, je me suis mis au niveau de ma bille, hein, et de Véronique, qui rigole, comme un espèce.
Ça va.
Oh non, ça, c'est pas le stérilisé, c'est le sac à main. Fais attention, Daniel Evnou.
Arrête de vouloir ramasser
avec
quelque
la valise
chose.
Ne lève pas les jambes,
qu'est-ce
Daniel.
Qu'est-ce que vous avez perdu, Ariel? Daniel, qu'est-ce que vous avez perdu?
Ariel Evnou, tu ramènes ça à Bernard-Henri Lévy, il va tirer une tête.
Qu'est-ce que vous avez perdu, Daniel?
Mais rien.
Mais si.
Elle a entendu haut les jambes, donc elle a levé les jambes pour voir l'effet que ça fait.
Et du coup, j'ai perdu mon appareil des oreilles.
Ah oui, l'écouteur, oui. Non,
un
pas
prompteur, je sais pas comment appeler ça.
Oui, parce que si tu te mets ça dans, carrément dans les oreilles. J'ai cru qu'elle allait se mettre ça dans les oreilles, tu sais, comme les vieux. J'ai dit, non.
Ça s'appelle, hein. Comment ça s'appelle le truc?
Un casque. Se met...
Non.
Un casque.
Quand un une femme est seule et qu'elle s'ennuie.
Un vibromasseur.
Non. Un taille. Un tille. Un petit vibromasseur.
Un taser.
Mais pompe à vélo.
Ça, c'est pour se défendre, c'est pas quand elle s'ennuie.
Mais non.
Parce que si
vous, les dames, qu'est-ce que vous mettez? Ça vibre. Mais c'est un toy. Un tic.
Un Toy Story.
Un tic.
Un sextoy.
Un sextoy. Bravo.
Un sextoy story.
Il a gagné.
Un sextoy story qui sort aujourd'hui.
Un sextoy aussi.
Je vois Daniel.
Ça fait tout. Avec Daniel, ça fait tout.
Je vois Daniel qui rentre chez elle le soir. Il fait sombre. Elle se fait attaquer par trois méclouches. Elle sort.
Un
sextoy. Oh les jambes, les gars.
Une question pour Edison Thomas Laguerre, qui habite Strasbourg, dans
Edison Thomas Laguerre.
Oui, Edison Thomas Laguerre, c'est son nom. Un Strasbourgeois qui espère 300 euros si vous retrouvez le nom de cette femme qui était représentée sur le dernier billet de 1000 lire en Italie, avant évidemment que l'Italie passe à l'euro. C'est elle qu'on voyait sur le dernier billet de 1000 lire, née près d'Ancona à Caravalle, dans les Marches, en Italie. Elle était morte le 6 mai 1952. Elle est toujours morte, d'ailleurs. Hein. Oui. Elle est morte le 6 mai...
A priori, oui, ça ne s'accouche pas, ce genre de truc.
Quand je dis elle est née dans les Marches, c'est une région, hein, Beaugrand. Oui.
Bah, sinon, ça doit faire mal. Hein. Parce que je pensais au cuirassé Potemkin, là, tout de suite. Là.
Non, elle est née dans les Marches. Oh. Les Marches, c'est une région italienne.
Une région, bien sûr.
Voilà, et elle est morte le 6 mai 1952.
Dans l'ascenseur.
Non, aux Pays-Bas.
C'était la femme d'un...
Et cette femme, médecin italienne, tout le monde connaît son nom. Je dis bien tout le monde connaît son nom. Mais de qui s'agit-il?
Elle a laissé son nom à un vaccin.
À un vaccin, non.
À un médicament.
Non.
À une maladie.
Je peux même vous donner son prénom si vous le souhaitez.
Oui, volontiers. Oui.
Maria, elle s'appelait Maria.
Chapdelaine.
Comment?
Chapdelaine.
Maria Chapdelaine.
Oui.
Ah oui, alors expliquez, elle est née...
Bah, c'est le nom d'un roman.
Et elle est née en Italie, Maria Chapdelaine.
Ça aurait
Maria
Cazares.
Elle serait pas plutôt canadienne ou québécoise, Maria Chapdelaine?
Voilà, très oui, bien, sûrement. Très
bien.
Oui, oui.
Tu as bien arrivé son club.
Un peu de culture connais, ici, quand même.
Tu connais l'Italie, capitale Toronto? Oui. Tu veux m'attaquer, mais t'es pas équipé pour. Hein.
Non, attends, on va voir ça.
Et son
on va
nom,
voir
ça, veut dire
si tu vas trouver, toi, si tu vas répondre.
Tout le monde connaît son nom.
C'est une comédienne.
Et d'ailleurs, même son nom devient de plus en plus à la mode. Une comédienne, non.
C'est le nom d'un plat italien?
J'ai dit qu'elle était médecin. Hein. Le nom d'un plat italien, non.
Carpaccia.
Mais son nom a une consonance italienne.
Son nom a une consonance italienne. Et, et vous connaissez tous son nom.
C'est une maladie.
Un produit, non.
Une maladie.
Maladie, non.
Une marque de pâte.
Non plus.
De voiture.
Maria Barilla.
Non.
Une marque de mobilette, de scooter.
Une marque, allez-y.
Piaggio.
Piaggio.
Maria
Piaggio. Ouais, vous connaissez tous son
Maria
nom.
Maria Piaggio qui est née dans les marches.
Ouais. Maria Magdalena dansait dans tes draps. Ouais. Un été, souviens-toi du côté de Palma.
Ah, bah oui, avec ça, on va fatalement perdre. Hein.
Bah, c'est plus l'Espagne. Alors, aussi.
Son nom est devenu quasiment une marque aujourd'hui.
Ah, j'avais demandé si c'était un nom commun ou une marque. C'est
Maria
une marque.
Frigidaire.
Jean Frigidaire, oui, c'est ça.
Sopalin, Sopalin.
Ah, comme ça.
Maria Scotch.
Kodak.
Non.
Berluti.
Non plus.
Est-ce que ça finit par O?
Non.
Est-ce
que, est-ce que ça finit par I?
Oui.
Est-ce que ça se porte?
I.
Est-ce que ça se porte?
Ça se porte, non.
Est-ce que c'est un produit qui se consomme?
Ce n'est pas tout à fait un produit.
C'est Maria de Bahia?
Non plus.
Maria de Bahia. Elle avait le teint comme du satin, la belle Maria.
Ah, oh, ben c'est la matinée quand je couille.
Et tous les gars caracolés quand elle montrait ses mollets, couleur de café au lait.
C'est quoi cette chanson, Pierre?
Aïe aïe Maria, ouais. C'est la chanson qui m'a fait rêver le plus quand j'avais 12 ans.
Est-ce qu'on peut trouver vraiment?
Oui, puisque je vous dis que tout le monde connaît son nom.
Attendez.
Et son nom devient de plus en plus à la mode. Alors,
ça, c'est-à-dire que son nom devient un mot de la conversation.
Un mot de la conversation, non.
Comment
mais
allez-vous
non. Mais une marque de plus en plus utilisée.
Comment alors, allez-vous peut-être?
Non.
iPhone.
Maria iPhone. Non mais enfin écoutez, j'aimerais que vous le soyez iPhone de temps en temps, vous voyez. Franchement.
En haut.
Mais alors c'est pas vraiment un produit, c'est non, que ça, c'est ça se fabrique.
Un produit, ce serait un mot un peu fort.
Ça se vend.
Maria Fiat.
Je vais peut-être vous aider, ce nom propre qui est devenu un peu le nom d'une marque, mais le marque est un peu inadéquat.
Oh là là.
Il y a eu tout un reportage sur ce nom.
Donc c'est une entreprise.
Entreprise, c'est pas alors, tout à fait.
Est-ce que c'est sportif? C'est physique en tout
pas
cas.
Du tout.
Pas du tout.
Je me régale avec mes questions.
Quand vous dites que c'est usité, on veut vous dire par là qu'il y a une espèce de déformation qui fait que.
Vous allez bien, vous, Christophe?
Pardonnez-moi. Qu'est-ce que t'as dit?
J'aime bien parce qu'il continue à chercher, il croit qu'il va trouver.
Moi, je peux m'arrêter. Hein.
Mais c'est pas gentil, ça, moi. Laurent.
Mais oui.
Je vous laisse faire, là, les couillons. Pas un problème. Mais si je l'avais trouvé, vous auriez l'air bien compte.
Non, mais pas vous plus qu'un autre.
Vous dites ça parce que j'étais à deux doigts.
Il vous reste 30 secondes.
Ah, mais non, ça va trop vite.
Il
y a eu un reportage parce que c'est un phénomène en ce moment.
C'est un phénomène, c'est un effet de mode. Et d'ailleurs, avant ça, on va dire que ça n'existait que d'une seule façon, sous un seul mode. Et depuis, des produits dérivés qu'on peut acheter en magasin.
Voilà. C'est lié aux nouvelles technologies.
Là, je ne peux pas vous en dire
plus. Décalcomanie.
Décalcomanie. Maria Décalcomanie.
Oui, bah oui, ça se termine en I.
Est-ce que c'est
je cherche.
La célèbre italienne.
Ah, c'est de la
Maria
Décalcomanie. C'est de la bave d'escargot.
Ah oui, ça se termine en I, ça aussi.
Elle était médecin ou elle était femme d'un homme connu?
Elle était députée, non?
Elle était un peu plus que médecin, mais si je vous avais dit
chercheuse.
Elle était ministre.
Si je vous avais dit sa spécialité, ça vous aurait trop
chercheuse.
Aidé.
Elle était prix Nobel.
Mondialement connue.
Prix Nobel.
Oh, bah non, non.
Cette femme prénommée Maria, qui était née le 31 août 1870 dans les Marches, région italienne.
Et ça fait mal.
Morte le 6 mai 1952 à Noordwijk aan Zee, aux Pays-Bas. Était une femme médecin, mais aussi pédagogue. Si vous avez dit pédagogue...
Montessori.
Pardon?
Montessori.
Oui, mais c'est trop tard. C'était bien Maria Montessori. Qui, en 1994, fut arrêté parce qu'il était en train de se faire opérer le testicule gauche à l'hôpital?
Vous auriez dit le droit, je savais qui c'était.
Ouais. Ah oui.
Mais le
Ah oui, c'est Patrick Bruel qui a le droit.
Il est parti alors qu'il était sur la table d'opération?
Il était venu dans cet hôpital pour se faire opérer du testicule gauche. Et puis... pas de chance, évidemment, il se fait arrêter.
C'est pas français, ça, monsieur.
En 1894,
non, en 1994.
Ah. Et c'est pas en France.
Alors, il a
pas un secret médical en France.
Il est français.
Il n'a pas été arrêté en France, il n'est pas français, mais en revanche, c'était pour la France qu'il a été arrêté.
Pour la France. Ah, donc c'était un trafiquant de drogue?
Trafiquant de drogue, non.
C'était un criminel nazi.
Criminel nazi, non plus.
Il avait pris les substances.
Comment ça, il a pris des substances?
Non, il était drogué.
Il était recherché.
Non, il n'était pas drogué.
Il était un bandit.
Spaggiari.
Non, c'est parce qu'il voulait des enfants qu'il est allé se faire opérer du testicule gauche, parce qu'il avait une tumeur qui empêchait la production de spermatozoïdes de bonne qualité. Oh. Il venait d'avoir 45 ans, sa femme en avait 26, il décide d'avoir un enfant, mais il est recherché par tout le monde. Et il va à l'hôpital pour le testicule gauche et paf, on l'arrête.
C'est un acteur?
Un acteur, non.
On va trouver l'origine, il était italien?
Italien, non.
Sportif.
Mais il était recherché de façon internationale.
Ah oui, ça, bien sûr.
Donc c'est vraiment du grand banditisme. Ah, c'est du crime en col blanc.
Qu'est-ce que vous appelez du crime en col blanc?
Par exemple, Madoff, c'est du crime en col blanc.
Ah non, c'est pas Madoff, non.
Non, mais c'était un homme politique.
Un parrain de la mafia?
Alors, c'était politique. Il y avait quelque chose de politique là-dedans, mais pas seulement.
Est-ce qu'il était américain?
Américain, non.
Est-ce que c'est un genre Pablo Escobar, enfin la drogue
Pas lié à la drogue, non.
Aux armes?
Aux armes, oui, mais pas seulement.
C'est tendu aux
Est-ce qu'on a fait un film
citoyen, oui.
Est-ce qu'on a fait un film de sa vie?
Je crois pas, pas encore, pas pour l'instant. Okay. Faut dire qu'il vit encore. Hein.
Ah, il vit encore.
Donc, il est en prison, là.
Il est en prison.
Ok, ben, moi je l'aime beaucoup, sans savoir qui c'est.
Carlos
je...
Bravo, c'est le terroriste, pas le chanteur, hein, Chantal.
Non, non. Ouais, ouais. Ah, Carlos. Ouais,
le
ouais.
Terroriste Carlos, bonne réponse de Chantal là-dessous. Bravo, Chantal.
Oui, je sais les trucs. Les prisonniers de Fleury-Mérogis m'aiment beaucoup. Je reçois du courrier.
Mais il n'est pas Fleury-Mérogis, ce non. Carlos.
Tu reçois du courrier de prisonnier?
Ouais.
Oh, putain.
Ils doivent être mal, hein. Qu'est-ce que tu fais, Patrick? Non, j'écris à Chantal là-dessus. Ah bon, mais pourquoi? Ça va pas?
Parce que j'ai envie de rester,
non, mais
en
j'hésitais
fait.
Entre le suicide et ça, et puis bon.
Pourquoi vous allez faire des spectacles dans les prisons?
Je suis allée jouer déjà dans les prisons, oui.
Ah ouais.
Ah,
moi aussi.
Ouais, ouais, c'est bien.
Ah non, c'est pas bien, non.
Bah, si, ils sont
moi,
très
j'ai un souvenir.
Ah oui, racontez.
Très content. À l'époque, j'étais avec Dieudo. Ouais. Je l'ai laissé là-bas, d'ailleurs.
T'aurais mieux fait.
Et on avait joué, on s'était fait un grand fantasme. On se disait, on va jouer dans la prison des femmes. On était excités à cette idée parce que voilà, on se disait les femmes, ça fait des mois qu'elles n'ont pas vu des hommes, etc.
Bah oui,
non mais je sais pas, on se faisait des délires quoi.
Mais
non mais
que
voilà.
Tu crois,
et bon, en fait, elles nous ont pris pour les inconnues. Elles étaient à moitié
mais
bourrées.
Non. Ouais.
Non,
ça a été une grosse déception. c'est la misère là-bas. Enfin, c'est
ah bon
terrible. Bah comment ça? Bon.
Bah oui, non mais.
Non, elles sont très contentes quand on vient jouer.
Et vous avez joué quoi vous?
Des sketchs.
Ah oui.
Mais c'est quand même vachement dur. Hein.
Pierre, vous voulez pas y aller, vous?
Moi, je reçois la lettre.
Ah oui?
Ouais. Enfin, je sais pas.
Il y en a un qui m'a dit quand je sors, je viens de voir.
Ça fait pas flipper du tout, ça.
Le surnom Chantal, c'est la peine planchée. Et alors, vous avez des nouvelles de lui?
Ben non, il en a pris pour pas mal quand même.
Il nous entend peut-être, là.
Il nous entend peut-être, je l'embrasse.
Eh bien, Chantal, on a une surprise pour vous.
Derrière le rideau.
Regardez, il lui a mis la boule à zéro, il est au premier rang.